Hello bande de beaux gosses, les nouveaux et les anciens, parce qu'en lançant le stream il y a quelques secondes, j'ai vu plein de petites cases quand vous écrivez un message pour la première fois dans un chat d'une chaîne, il y a un petit cadre qui écrit très solennellement message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Et j'ai vu plein, c'est quoi ce raid de fou? J'arrive Kaby. Et j'ai vu plein de petits cadres comme ça ce matin, donc ça m'a fait plaisir, je me suis dit mais pourquoi tant de nouvelles en ce lundi 15 septembre. Ça fait plaisir en vrai. Du coup, je me suis dit, ouais, dis bonjour aux nouveaux, dis bonjour aux anciens aussi. Dis bonjour à ceux qui nous raident aussi et Kaby, j'arrive. Dis bonjour aussi à ceux qui envoient des jolis messages dans le chat, comme Rimek, qui vient de prendre un 36e mois d'abonnement et qui nous dit merci Sam pour ce que tu donnes à ta commu. Merci, à toi. Grâce à ça, j'ai appris à affiner ma réflexion, ce que j'entends. Bref, Samuel est mort, vive Samuel. Le roi est mort, vive Samuel. J'adore. Je valide la ref. Merci beaucoup. Merci Kaby45 pour cette incroyable raid de bon matin qui met en forme. Je vous montre la chaîne qui vient de nous raid. Ici. Elle est là. Hop. Tac. Là, vous avez rien. Là, vous avez Google. Et là, vous avez Kaby. Haha. Que je ne suis pas. Mais découvrons cette chaîne. Comment ça se fait que je ne suive pas Kaby? Kaby45, manifestement, ça n'est pas ton âge. 45, ça n'est pas ta pointure non plus. 45, c'est beaucoup. C'est peut-être un département, non? Alors, oh. Alors moi, j'aime cliquer dans... Là, vous avez accueil. Là, vous avez les vidéos, les replays. Là, vous avez bio. Et la bio, c'est là où on en apprend plus du streamer ou de la streameuse qui... What? Ça va pas, non? C'est 45, Loiret? Alors, là, dans la bio, tu vois, c'est là où tu apprends des choses sur le contenu, sur la promesse. Et là... Merci, Kaby. Oh. Et vous étiez vachement nombreux, en plus, Kaby, ce matin. Et alors, ça stream tôt le matin, comme ça? Ou ça stream tard la nuit? Est-ce que c'est un stream tôt du matin? Ou c'est un stream tard de la nuit? Et là, donc, la bio, c'est « Oui, c'est moi, oui. Oui, c'est moi, oui. » Tard la nuit ? Incroyable. Et qu'est-ce qu'on y fait, alors, sur cette chaîne, puisque la bio me dit juste que « Oui, c'est moi, oui. » Qu'est-ce qu'on y fait ? Racontez-moi. Je m'excuse d'avance, car quand je rentre du travail et que j'arrive à la maison, je me pose, je m'endors car ta voix est reposante. Ah, trop bien, Lolo. Endors-toi. Repose-toi. Tu l'as bien mérité. Imo sur Valo. Quand je connais un gars, vous allez rire. Merci Mister So pour le 20e mois. Merci MRT pour le 6e mois. Je connais un gars, vous allez rire. Le mec, il est hardstock bronze depuis 2 ans. Sur ce jeu-là. Il rêve de silver. Le nul. Imo sur Valo, elle joue dans la bienveillance. Ça change, c'est cool. Incroyable. Valo et elle pleure quand ses amis lancent sans elle, mais elle m'a l'air tellement sympathique. Tu laves jusqu'à quand? Oh, on va cut tôt ce matin, 11h30. J'ai un taxi qui m'emmène au grand concours des animateurs de TF1. Pff, j'ai une vie de fou. Eh, faut qu'on lance le stream chez les amis de TikTok aussi, parce que vous avez toujours la priorité, vous savez, mais la revue de presse, on l'a fait également sur TikTok. Ils sont assez cool en vrai, les gens là-bas. Histoire d'exposer l'actualité sur. D'autres plateformes, sachant que bientôt on va arriver en podcast aussi, j'entends de travailler là-dessus. Démarrer live sur TikTok, c'est parti. Alors, comment on met le chat en fenêtré comme ça? Oh, ça me fait 2 chats. Plus on est de fous, plus on rit. Bienvenue à Meet TikTok, on vient de lancer la revue de presse la matinée Etienne sur Twitch. Et on est très heureux de vous retrouver également. Comment tu as trouvé le jeu Black Ops de Samplay? Nouvelle addiction ou pas du tout? Ah, attends, tu parles du jeu d'hier? Attendez, comment s'appelle déjà le jeu qu'on a découvert hier soir avec Show H1? Dans la rentrée de Samplay, 3e saison, chaque dimanche soir sur ma chaîne Twitch, un rendez-vous avec un streamer, une streameuse qui me parle de son jeu préféré. Comment on l'a... Warzone. Oui, alors incroyable, j'ai pris une grosse claque. Incroyable Warzone. Ok, BR, Battle Royale, dans l'univers de Call of, ok, ça sent bon, mais ça sent très bon même. Et je suis sûr que justement ce jeu peut m'aider aussi à progresser peut-être sur Valo, parce que c'est un jeu qui où tu as besoin d'être super réactif, très rapide. J'ai adoré. Je me réjouis à l'avance à l'idée de rejouer avec Shoah1, avec Yann, avec qui on s'est dit hier qu'on aurait pu se faire des petits duos Q tous les deux. Voilà. Et de le voir jouer, c'était super. Jouer moi-même, c'était super. J'ai adoré. Vous l'avez en replay à partir de 13h, je pense, sur ma chaîne Twitch. Non, sur ma chaîne Twitch, dès maintenant, gratuitement, pardon. Et à partir de 13h, sur ma chaîne YouTube. Ouais. La vitesse d'exécution, tu prends les automatismes. Ouais. Incroyable. Ouais, tellement une crème chaud, ouais. C'est une belle rencontre hier soir. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les dimanches soirs, c'est la troisième saison. Vous savez, ce moment où le stress de la fin du week-end commence à nous gagner. Ah là là, demain, il faut reprendre le boulot. Ou les cours, je ne sais pas. Bah nous, on a une soirée le dimanche soir où on se pose ensemble tranquillement. J'invite quelqu'un. Tiens, j'ai oublié de le dire ce soir, mais ce sera Maxime Biaggi dimanche prochain, ici en Leak. Et tous les dimanches soirs, un streamer ou une streameuse, et puis il vient me parler de son jeu préféré, et je découvre un nouveau jeu, et on y joue ensemble, et parfois j'y rejoue. Voilà, comme Valo et d'autres. Ah, il y a des travaux à côté. Donc, ouais, le Max. Maxime Biaggi dimanche prochain, ouais. J'ai oublié de le dire hier soir. Seul regret de la soirée d'hier, j'ai oublié de vous dire quel était l'invité de la semaine prochaine. Enfin, s'il m'envoie sa photo, putain. Si vous croisez Maxime Biaggi, dites-lui que j'attends sa photo. Parce que pour faire le joli visuel d'annonce de l'émission, il me faut une photo. Et il m'a pas envoyé sa photo. Ça fait 10 fois que je le relance, putain, il est trop occupé. Voilà. Je l'avais peut-être déjà un peu lui, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors Maxime Biaggi, formidable. Les jeux. Le jeu, les jeux qu'il nous a proposés. Des jeux, je sais pas comment le dire. Des jeux de merde en vrai. Des jeux. J'ai passé une demi-heure sur Google à vérifier que c'était bien ça qu'on joue quoi. Mais c'est quoi ces jeux totalement claqués au sol, des jeux de salle d'attente quoi, des trucs. Mais il m'a dit t'inquiète, on va bien rigoler. Bah, envoie-moi ta photo déjà. Voilà. Ah oui, et ce soir, t'as cassé du cul, joli pseudo, tu as raison. Et ce soir, Réat, question pour un champion. Vous savez, question pour un champion, désormais c'est le week-end, c'est samedi, c'est le dimanche. Bon, moins de questions pour un champion à la télé, mais plus sur Twitch. On l'a fait la semaine dernière, c'est au coup par coup, hein. Je sais pas si on le fera tous les lundis, profitez. Et donc ce soir, 20h, on se regarde ensemble les deux questions pour un champion. Deux samedis et dimanche, on se les réacte, vous jouez, j'écoute Samuel Etienne, l'autre, qui pose la question, on fait pause, vous répondez, voilà, on rigole et je vous raconte les coulisses de l'émission et de la télévision avec des petites choses un peu croustillantes sur la vie de la télé que j'explore depuis 30 ans, du coup j'ai des trucs à vous raconter. Voilà. Ah, merci, merci pour tous les bonjours et c'est adorable. Merci Nicolas, merci Will. L'autre, bah c'est moi, mais le moi de la télé. L'autre, Samuel Etienne, c'est le moi de la télé. Celui qui dit moins de bêtises, celui qui essaie de se tenir. Comme au grand concours des animateurs de TF1, où je vais, là, à 11h30, je vous abandonne, je saute dans un taxi, je vais, je sais pas où d'ailleurs, et je rejoins plein de collègues de un peu de mon ancienne vie. Tu as gagné combien de fois déjà le grand concours des animateurs? Zéro. Une fois en finale. Et ça s'est joué sur le nom du petit d'un animal. Je l'avais. J'ai pas osé proposer, mais je suis sûr que ça doit pas être ça. Et puis j'ai raté. Donc j'ai failli win. Donc voilà, donc là, donc je retrouve plein d'anciens collègues télé de toutes les chaînes. C'est un peu le principe du grand concours des animateurs. C'est pas vraiment un jeu de culture générale. Moi j'aime bien les vieilles questions, un peu d'histoire, tout ça là. Je sais pas, ou d'économie ou de politique. C'est pas vraiment un jeu. C'est un jeu. C'est plus de la pop culture. Il y a des questions sur les sons de l'été, les tubes de l'été, sur tu vois les des trucs. Tu vois, c'est ma lecture des journaux me sert à rien. C'est pas du tout des questions sur l'actu ou très peu. Je sais pas. Mais bon. Je parle littéralement avec aucun avantage dans le jeu. Et bonjour, est-ce que tu peux dire à bonjour à Mémé Sylviane, elle vous adore, mais Camille, bien sûr. Mémé Sylviane, je ne sais pas si vous êtes là, mais je vous embrasse très fort. C'est Camille, qui est peut-être votre petite fille, qui m'a demandé ça dans le chat. Hein. Peut-être Toi, il n'y a pas de question sur Valorant. Il n'y a pas de question sur. Sur moi. C'est un sujet que je connais bien. Non, blague à part, non. Non, c'est des. C'est des. C'est, bon, on va voir, quoi. Mais la culture pop ne fait-elle pas partie de la culture G? Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a que ça. C'est que des questions un peu culture pop, quoi. Enfin, culture pop télé, quoi. Pas culture pop internet. Enfin, bref, je me comprends. Et sauf qu'il n'y a que ça. C'est vraiment. Enfin, je suis en train de critiquer le truc. Non, c'est bien, mais je suis un peu décontenancé par les questions, quoi. Et en plus, il y a des questions de logique, il y a des questions de logique, des questions de calcul. Quel enfer. Florian me dit, bonjour, je viens d'émettre des 12 coups de midi, on peut changer si vous le désirez. Non, parce que c'est pour les animateurs. J'aime cette ambiance dans le chat, c'est adorable. Vous êtes trop bien. C'est très agréable de vous lire de bon matin. Bon! Ouais, c'était bien le Grand Rex. C'est la culture paf, exactement. Salut Sam, c'était hier avec Shaw. C'était top hier avec Shaw. C'était trop bien avec Shaw. Donc Shaw H1, mon premier invité de la saison 3 de Ça me plaît. Vous avez le replay gratuitement sur ma chaîne Twitch. Vous avez le replay à partir de 13h sur ma chaîne YouTube. Et grâce aux excellents talents de pédagogue de Yann de Shaw H1, qui nous venait donc de Montpellier, eh bien, vous comprendrez tout à ce jeu incroyable qui est Warzone. Voilà. Est-ce que tu aimerais un jour créer une équipe Valorant? Me demande Florian. Tu devais pas inviter Zach aussi? Oui, mais il y a eu un bins d'emploi du temps. Voilà. Je vous raconte les coulisses. Créer une équipe Valorant? Ouais, c'est un projet. Quand je serai en EHPAD, je ferai une team vieux. Vieux-vieille, une équipe mixte. Et on roulera sur toutes les équipes EHPAD du monde, de retraités. Voilà. On sera quand on ira jouer en compétition dans les EHPAD, ça claquera des dents. Ou du dentier, ça dépend. On roulera sur la compétition, mais compétition gold, senior. Salut Aurélie, GG, joli boulot. Tu vas passer au GP? Non. Non. Je sais pas quand c'est. Attention Sam, les EHPAD ont plus de potentiel qu'on peut le croire. Ouais, mais je vais leur rouler dessus. Coach ou joueur? Les deux. Je serai coach joueur. Je serai IGL. Tu joues à quoi par Valo? Bah plein de jeux en fait, Laura. Sans arrêt. Mais c'est mon jeu de cœur, quoi. Comment se passe la cicatrisation du dos? Impeccable. Le tatouage est magnifique. Et dans le dos, Alors, le premier tatouage dans le dos, mon dernier tatouage de dragon, mon quatrième, c'est que le tatouage dans le dos, tu ne le vois pas beaucoup. Un présentateur avec un ego comme ça. C'est marrant parce que sur Twitch, on me voit faire comme ça, et sur TikTok, c'est vertical, donc on ne me voit pas faire comme ça. C'est incroyable, regardez. Là, un ego comme ça, et là, TikTok, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors que Twitch, vous savez. Tu vois? Hop, et le truc là, ouais, tu vois. Michel Gueminc, justement, la cam est mal placée. Non, elle est très bien placée. J'avais essayé dans tes fesses, Michel, mais c'était un peu sombre. Donc finalement, je l'ai mise là. D'autres questions? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le problème du tatouage dans le dos, c'est que tu le vois pas, quoi. T'entends le matin, je jette un petit coup d'œil avec le miroir, là, mais j'en suis très heureux. Samuel, t'as commencé à parler de l'actualité ou j'arrive trop tard? Non, non, on va y aller. Il faut que j'arrête de dire des bêtises. Oh, pardon, Michel. C'était par rapport au tatouage, excuse-moi. Michel s'est pris une balle perdue alors qu'en fait, il voulait parler de la cam qui me filmait pendant le tatouage. Et Michel, je suis désolé, j'avais pas compris ta question. Je retire la caméra de tes fesses. Excuse-moi. Non, mais c'est parce qu'en fait, Luna, la tatoueuse, voulait pas en fait. Ça la gênait qu'on mette une caméra là. Ça la stressait un peu. Voilà. Donc on avait prévu de mettre une deuxième caméra derrière. Mais faut imaginer Luna ce qu'elle a vécu tatouée pendant 5 heures avec le bruit, les cris, 1000 balles, le train de Sylvain Lévy. les 1h30 sur les 5h où j'ai eu un peu mal, où j'étais en mode. Plus mes blagues de daron, devant des milliers de personnes, des zinzins qui sautent partout. Donc, la caméra sur elle, sur les mains, sur... c'était trop. Ouais. Pardon, Michel, désolé, excuse-moi. Les coups de maillotche. Et je vais retourner la voir, Luna, bientôt, parce qu'il faut que je finisse le tatouage. Il me reste grand-chose. Pas grand-chose, il me reste des petites flamèches bleues sur les côtés. Voilà. Mais le dragon en lui-même est terminé. C'était magnifique. Je suis super content. Il est vraiment très beau. Est-ce que l'expérience sociale qui se dégage de la marche de Nico et Bailan Montpellier-Paris a déjà été évoquée dans la presse? Non, El Fadou. Et c'est surprenant d'ailleurs. Alors que c'est quand même un truc assez étonnant. Ils vont en parler quand on... Ils vont en parler quand? T'as raison. Je me suis pas posé. Pourquoi la presse n'en parle pas? C'est quand même un truc assez étonnant, quoi. Ouais. Dans le Parisien sur YouTube. Ah, ils ont fait une vidéo YouTube. Ouais. Ouais, mais bon, moi je lis les journaux, moi. Tu lui feras un gros bisou de notre part? Bien sûr. Salut Claudia. C'était bien les frais. On va, mais vous me donnez l'idée. J'irai voir. J'irai voir les. S'il n'y a pas les articles, ouais. Samuel, je t'adore, mon professeur vous donne un bonjour. Bah, je vous embrasse tous les deux, chéri. Chéri, pardon. Chéri, chéri, comme la cerise. Vous êtes trop gentil. C'est quoi ces messages d'amour, là? Bon! Alors on accélère parce que ce matin, je suis obligé de vous laisser à 11h30, because le grand concours des animateurs de TF1. Donc, je vais vous faire un petit sommaire qui m'écrit bon matin là. Ah, il faut que j'écrive. Oh, pardon. Il faut que j'écrive à quelqu'un parce que j'ai. Attends. C'est en anglais, mon anglais écrit est pas terrible. Hello. J'ai pensé à un truc là. Oui. As it is, it is. Note tout. Comment on dit rayer, c'est scratch. Not use. Comment le côté vert de l'éponge, comment on dit une éponge en anglais? L'éponge pour nettoyer. Try not to use the. Le. Sponge, like SpongeBob. Ok. Use. Green side of the sponge. Je suis passionnante. Of the sponge. Ah! The scratching side, ah oui. Ah. Scrub. The scratch. The green side. Oh. Green side, parce que scratch. Vous êtes incroyable. Eh, qu'est-ce que t'as besoin de chat GPT quand t'as un chat, quand t'as un double chat? Voilà. Thanks. Thanks. Have a nice day quand même. Nice day. Excusez-moi, j'ai une vie passionnante, je parle d'éponge. Et évidemment, mon SMS, je vais essayer de corriger tout mon anglais. Voilà. Trop bien. Ah. Bon, let's go. Alors les amis, la matinée Étienne, c'est tous les matins. Tous les matins, 9h midi en général. Là, j'ai annoncé un petit peu plus tôt. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Voilà. Et désormais, c'est vraiment l'engagement. Tous les matins, 9h midi, du lundi au vendredi. Faut pas déconner, le week-end, on fait d'autres trucs. Enfin, on stream d'autres trucs. Eh bien, je lis les journaux que j'aime. Hein, la presse quotidienne. nationale, celle où il y a plein d'informations un peu sur tous les sujets. Et bon, bah, je pourrais lire une autre presse régionale, magazine, internet, international, il y en a plein d'autres, mais bon, à un moment, il faut faire des choix, sinon la revue de presse durerait deux jours. Donc, on lit cette presse-là. Je fais une petite sélection d'articles sur les sujets qui me semblent importants, les articles qui me semblent plutôt bien faits. Et puis, on en parle ensemble, parce qu'on n'est pas à la télé, et du coup, ça permet d'échanger. Donc, on fait ça depuis 5 ans. Comme je fais moins de télé qu'avant, eh bien, là, cette saison, je vais vraiment essayer d'être là tous les matins. Même quand on se couche tard la veille comme hier soir avec Samplay et point d'exclamation RDP KCDQ et tu auras un petit peu la ligne éditoriale du truc sur Twitch et donc qu'est-ce que je disais, donc cette année je pense qu'on va être vraiment en capacité de le faire tous les matins sauf exception, sauf vraiment gros truc, gros tournage que je pouvais pas déplacer, et dans ce cas là on essaiera de la faire le soir pour qu'il y ait vraiment la revue de presse tous les matins. C'est comme une promesse pour la présidentielle mais qu'on va essayer de tenir. Oui, le principe. Voilà. Et on commence par quoi ? Par un petit sommaire de 5-10 minutes. N'as-tu pas peur d'être mis de côté la télé ? Non. Ah, d'abord parce que moi, j'ai aucun projet télé. Parce que j'ai pas le temps d'en faire. Hein, clairement, depuis que j'ai découvert Twitch, ma priorité, c'est celle-là. La question, c'est est-ce que la télé a pas plutôt peur de se passer de moi ? Non, en vrai, moi, ça fait des années que je cherche pas vraiment à travailler en télé. Question pour un champion était une très belle exception parce que j'adore ce jeu. Et donc, j'ai essayé de le porter aussi loin que possible, que j'ai 9 ans quand même en quotidienne. Et donc, non, ça, clairement, je ne cache pas, c'est pas la priorité. Après, s'il y a des projets amusants, cool, intelligents, on peut se marrer en télévision ou en radio, je ne dirais pas non. Mais là, par exemple, Solène Chavannes, bien sûr, c'est une animatrice, je crois. Louis, je crois que j'ai déjà croisé. Donc là, par exemple, je vais participer un peu pour le fun au grand concours des animateurs, mais c'est comme invité. Et puis, qui sait ? Merci Demon Walker pour le cinquième mois. Merci Tidider pour ton abonnement et les abonnements que tu offres à la commu. Merci Bernardou. Et bisous à ta grand-mère qui m'a pas reconnu malgré mes lunettes. Merci Tidider, je l'avais pas vu. Merci Hélène PK. Merci Dudu Rocosar, j'ai vu aucun sub. Merci Mister So. Vous êtes incroyable. Merci Lano, merci Divine Mask, merci Léon. Et donc, qui sait, peut-être que dans les prochains mois, je vais vous annoncer que je peux participer à un truc en télé. On ne sait pas. Parfois, on a des secrets. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit sommaire d'actualité ce matin ?
Est-ce que vous êtes prêts pour un petit sommaire d'actualité ce matin ?
Oui, on est toujours animateur de questions pour un champion qui est passé au week-end. D'ailleurs, ce soir sur Twitch, on fera le react des émissions de samedi et dimanche. Oui ? Oui, let's go, oh yeah. Tu es son fils ? Eh bien, Louis, sache que j'ai un très bon souvenir de ta maman que j'ai croisée sur des plateaux télé et pas assez d'ailleurs, mais c'est quelqu'un que j'ai trouvé extrêmement sympathique et agréable et très professionnel. Voilà, très bon souvenir. Ma mémé est très triste qu'il n'y ait plus question pour un champion. Je reçois beaucoup de messages très touchants en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Embrasse-la bien fort. Mais Louis, c'est vrai, hein, c'est sincère. Allez, let's go. Petit sommaire. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actu ce matin ? Bah, y a plein de choses intéressantes. D'abord, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Ok, ça marche. Impeccable. La dette. La dette. Merci, Pika. La dette. Bon, vous savez que la France est un pays endetté. La dette en valeur absolue de notre pays est importante, mais surtout, ce qui est surtout ça qui est important, en pourcentage du PIB, elle ne cesse d'augmenter. Bon, la dette, c'est un problème, mais ce qui est surtout embêtant, c'est la charge de la dette, c'est les intérêts. Parce qu'avoir de la dette en soi, c'est pas une mauvaise chose, ça permet de financer des choses dans un grand pays comme le nôtre. Mais il y a un moment, quand les intérêts que tu payes pour rembourser cette dette atteignent un certain niveau, ça peut devenir problématique. À moins de penser, comme certains Zuluberlu que j'ai entendu aux The Event, qui disent la dette c'est dans la tête. Mais hein, que penser de ces comportements irresponsables ? Pourquoi je vous en parle ce matin ? Parce qu'il y a une agence de notation, l'agence internationale, qui note, on va dire, la santé économique, notamment des pays et leur crédibilité. Leur crédibilité, notamment, à rembourser de la dette. Une agence de notation qui s'appelle Fitch a dégradé notre note. Voilà. On a perdu notre double A et on est à A+. Ça veut dire A+. au collège, au lycée, études supérieures, A plus, très bien. Ouais, mais là, du coup, par rapport à d'autres pays, c'est moins bien. Et le risque, c'est que ça renchérisse le coût de la dette. Mécaniquement. Voilà. Et on verra pourquoi. Donc, Le Monde y consacre sa une. Dans un contexte de nouveau gouvernement, le cornu, vous le savez. Voilà. Donc, on va lire ce papier. Fitch fait perdre son double A à la France. Le Monde nous dit que la France paie le prix de l'instabilité. Quoi, de l'instabilité politique? On verra. L'agence a baissé à plus la note accordée à la dette tricolore devant les difficultés du pays à réduire son déficit. Puisque vous savez que Bayrou a sauté sur cette question justement de réduire le déficit de 44 milliards d'euros. Donc on se penchera rapidement sur ça dans Le Monde, dans Le Figaro aussi, hein, qui justement craint Le Figaro, journal plutôt de droite conservateur, que le nouveau gouvernement limite la baisse voulue de la dette par François Bayrou, voire augmente les impôts. Et vous avez les patrons, les syndicats patronaux et la droite contre ce cap à gauche, que pourrait, conditionnel, prendre le gouvernement, le cornu, Le Figaro, qui parle d'une démagogie intenable ce matin. La dégradation de la note souveraine de la France accentue la pression sur Sébastien Lecornu. On verra ce qu'en pense Le Figaro. Lecornu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire le nouveau Premier ministre? Il va devoir faire des compromis. Voilà. Et on a un bel édito dans La Croix de Fabienne Lemayeux, hein, qui se demande quelle marge il a. Pas marge Simpson, quelle marge. Quelle latitude il a? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il va temporiser, comme dit Moulbit? Est-ce qu'il va faire du blabla, comme dit Paz? Voilà. Un édito assez intéressant sur la marge de manœuvre de Lecornu. Voilà. Syndicats, agriculteurs, patronat, cette fois c'est la une de Libération. Lecornu, une pression de déjà-vu. Pas une impression de déjà-vu, petit jeu de mots, mais une pression de déjà-vu. Encore moins populaire que Bayrou lors de son arrivée à Matignon. Comme quoi tout est possible. Le nouveau Premier ministre est attendu sur tous les fronts. Franchement, le job, quoi. Ouf. Par la gauche, par la droite. La droite, faut pas augmenter les impôts. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faut baisser la dette, la gauche. On va augmenter les impôts. Attention, sinon on sort sur le gouvernement. L'extrême droite, démission, élection, LFI. Ouais, pareil. Ouais. Voilà, donc nouveau Premier ministre attendu sur tous les fronts entre consultations politiques et mouvement social du 18 septembre. Bon, voilà. Lecornu dans les taux d'intérêt. Oui, je parlais de marge de manœuvre. Ouh, j'avais pas vu, j'avais pas compris le titre. Les taux d'intérêt, les int. Voilà. Dans un pays où je ne cesse de vous expliquer que l'issue à cette crise politique gravissime que nous vivons là, en ce moment, c'est que on change de logiciel et que on commence à se parler. Que les groupes parlementaires, les députés de tous bords, les partis, faisant le constat qu'aucun parti n'est en capacité de prendre le pouvoir à lui seul et d'avoir une majorité, eh bien, on doit aller vers plus de concertation, hein, comme essayent de le faire certains de nos voisins européens dans les régimes parlementaires. Sauf qu'on n'a pas cette culture politique, nous. Voilà, donc on a plein d'intérêts différents qui s'expriment dans plein de partis ou lobbies différents. Et au milieu, on a aujourd'hui notamment Monsieur Lecornu qui est dans un étau d'intérêt, et taux d'intérêt pas mal. Syndicats, RN, gauche, agriculteurs et même patrons. Attention, les patrons menacent de descendre dans la rue. Je sais plus, je voyais un article ce matin qui disait, mais ça ressemble à quoi une manif de patrons? Tous réaffirment leur position et mettent la pression sur le nouveau Premier ministre après un premier recul sur les jours fériés. Ah oui, a priori, les 2 jours fériés là, supprimés de Bayrou, c'est abandonné, ça. J'ai vu ça, ouais. Après un premier recul sur les jours fériés, il mentionne timidement la justice fiscale. Est-ce qu'on augmente les impôts sur les entreprises les plus riches, sur les ultra-riches, les particuliers en France? Il mentionne timidement la justice fiscale, insuffisant pour le PS, déjà trop pour LR. Merci Coco PB76, merci Bimbojet, merci PK, vous êtes incroyable. Salut Sam, d'où vient cette idée de président, de présidentiel? Anthony me dit, tu n'as pas peur pour ton image parce que les présidents qu'on a connus sont rarement sortis avec une image positive. Si je me présente à la présidentielle, si je suis élu à la présidentielle en 2027, puisque c'est notre projet, ce sera dans un esprit de sacrifice. Je ne le ferai pas pour moi, je le ferai pour les Français. Et les Françaises. Voilà. Il y a une rêve pour les vieux à la fin que j'ai glissé là, mais il faut vraiment être très vieux pour comprendre la petite rêve sonore là, que j'ai mise à la fin. Est-ce que certains... Valéry Giscard d'Estaing, bravo. C'est très vieux. C'est très vieux. C'est... Les jeunes, vous ne pouvez pas comprendre. À qui la faute? Pourquoi on en est là? Pourquoi le système politique français semble bloqué? Pourquoi les gouvernements changent tous les 6 mois? Pourquoi le silence? Pourquoi c'est le bordel? Alors, voilà, ça dépend de l'analyse. Pour Rémi Lefebvre, qui est un professeur de sciences politiques, Emmanuel Macron est largement responsable de l'effondrement actuel du système politique. Voilà, donc on lira cette analyse. Pourquoi est-il responsable? Donc on va beaucoup parler de dette, d'économie, de crise politique ce matin. On va parler d'autres choses aussi, j'ai plein d'autres actus, c'est pour ça que j'accélère un petit peu, je suis dans le sommaire. Notamment l'incroyable exploit d'un certain Jimmy Gressier. J'ai vu ça sur les réseaux ce matin en me levant, et puis il y a des articles beaucoup. Qui vient de rentrer dans un tout petit club, le club des Français qui ont été champions du monde. Voilà. Il nous a claqué un titre de champion du monde du 10 000 mètres. Ça se passe où d'ailleurs? À Tokyo. Une course de folle. Voilà. À 28 ans, Jimmy Gressier, le gamin de Boulogne-sur-Mer. C'est le même endroit que Ribéry. À l'enfance difficile, a été sacré ce dimanche à Tokyo, 2000 mètres distance que beaucoup pensaient inabordable. Donc on lira ça. Donc c'est la une de l'équipe. Hein, souvent le lundi matin, la une de l'équipe, c'est sur le foot. Hein. Sur la Ligue 1 ou autre. Hein. L'équipe, le foot très présent, même si c'est un joueur qui s'intéresse à tous les sports. Et là, vous avez de l'athlé. Hein. Là, vous avez de l'athlé en une de l'équipe. Dans une course tactique, Jimmy Gressier a jailli. Pouch dans la dernière ligne droite pour offrir à Tokyo sa première médaille d'or mondiale au fond français. Il y avait peut-être eu des médailles d'or dans le passé, en demi-fond. Si doux, si dingue. Merci Mars, 2690. Merci Rox. Merci à tous les deux. Merci Review. Merci J.K. Didon. J'ai pas compris la une de l'équipe. Aux anges, etc. Moi non plus. Je l'ai pas. J'avoue, je ne comprends pas le titre. Vous êtes plusieurs à me le dire dans le chat. Moi non plus. Ça faisait longtemps... aux armes, etc. Mais pourquoi aux anges? Alors, l'équipe, c'est un journal qui est un excellent journal. Mais au niveau de ses titres, de sa titraille, comme on dit dans le jargon, parfois, c'est pas... Ah, parce qu'il est aux anges. Ouais. Ouais. Bonjour à tous, je débarque de la vidéo du bureau des sauces que tu as fait avec Ava Mind. Ah oui, c'était bien. Je l'aime bien, Ava. Merci, Pelsiver. Ouais. Donc aux anges, etc. Ok, d'accord, ouais, vaguement, ouais, vite fait. Bon, voilà. Et donc on se penchera sur cette course incroyable. Je voulais trop te voir au champion de Valo, j'ai trop le seum. Mais j'y étais, j'étais à Berlin. Voilà. Donc on se penchera sur cette prouesse, sur ce parcours. Du sport à l'e-sport. Du sport à l'e-sport. Magnifique. Pourquoi sur TikTok vous n'avez plus les journaux? Mais attends, sur TikTok, ça fait longtemps que vous n'avez plus les articles? Je viens de voir TikTok, là, vous n'avez pas les journaux que je vous montrais. Ça fait longtemps que vous ne les avez pas, les articles que je vous montre? Là, les photos que je vous ai montrées à l'instant, là, la une de l'équipe, tout ça, vous ne les aviez pas? 5 minutes? Bah, faut m'engueuler, les gars! Faut m'engueuler quand vous ne voyez plus les trucs! Tu sais pas ce que j'ai fait? T'as fait longtemps? 5 minutes? Bon. Non, très peu de temps, ok, d'accord. Très peu de temps, juste 3 jours. Salut, joli cœur. Donc, du sport à l'e-sport, mesdames et messieurs, cocorico, cocorico ! La France, c'est nous, ça. C'est France, c'est là nous, c'est nous, c'est nous. La France sur le podium de l'e-sport mondial. En cette rentrée, plusieurs compétitions majeures d'e-sport sont organisées en France, qui s'affirme de plus en plus comme une place forte. Dans le même temps, les clubs tricolores de jeux vidéo compétitifs tels que Vitality, Gentlemates ou la K-Corp brillent sur les terrains. Voilà. Sans compter, ajoute les Échos dans cet article, le futur club d'e-sport dans les EHPAD de Samuel Etienne. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui ajoute ça. Donc voilà, un petit peu cocorico. Manifestement, on est pas mal sur l'e-sport et on verra pourquoi. Et puis on parlera, voyez, l'enchaînement, hein, du sport à l'e-sport, des jeux vidéo aux jeux de société. Gros dossier dans le monde, passionnant, sur la passion des Français et des Françaises pour les jeux de société. Voilà. Boosté par les titres phares comme Skyjo, c'est Skyjo on dit, Codenames ou Catan, la fièvre ludique, la fièvre des jeux de société, s'est emparée de la France au point d'en faire le premier marché pour les jeux de société en Europe. Nous sommes le premier marché, la France. On dit Catan ? On dit Catan ? Merci. Nous sommes le premier marché en Europe pour les jeux de société, mesdames et messieurs. Merci Lightchain, merci Stella Amour. Merci Sujiki. Dans ce monde parallèle, personne ne vous reprochera de ne pas avoir les bonnes cartes. Voilà, un gros dossier dans le monde qui est vachement bien fait sur la passion des Français et des Françaises pour les jeux de société. Voilà. MDR, t'es un mix entre Louis de Funès et Jean-Paul Gaultier. J'aime bien ce commentaire d'Abdelkader en vrai. Moitié Louis de Funès, moitié créateur de mode. Ok, je prends. Ok. Et puis à propos de Goat, voilà, eh bien, un joli portrait dans le monde de Mr. V, Ivic, le youtubeur, le comédien. Et je crois qu'il y a un film qui sort avec lui, là, sur Amazon, non? C'est l'actualité. Pardon. Que j'ai raté, parce qu'il est sorti il y a 2-3 jours, je crois. MC Walter, un truc comme ça, ouais. Ouais. MC Walter, ouais. Certains l'ont vu ou pas? Parce que du coup, il y a un article dans le monde. Le film qu'il avait tease dans Samplay. Ah, il nous en avait parlé dans Samplay? Il nous avait... Parce qu'il est venu à la maison dans Samplay, mon émission sur le jeu vidéo, pour jouer à NBA 2K. On avait joué 5 minutes et on avait parlé 3 heures. On avait fait un concours de prout, notamment pour une exclamation prout dans le chat sur Twitch. Et vous avez le replay de ce live. Mouche-toi, pitié, misophone ici. Ok, Owen. C'est un peu éclaté. Ouais, le film. C'est pas mal, me dit Bernardo. J'ai vu un peu trop décalé pour moi. Ouh, tu me plais là. Décalé, j'aime bien. Pas ouf, malheureusement. Ok. Merci, Abdelkader. Tu régales. Il faut avoir le second degré. Ok, on en a. J'irai voir ce soir. Je me suis endormi 2 fois. Bah, c'est peut-être parce que t'as mon âge. Moi, je m'endors le soir devant ma tablette au lit, hein, en regardant des séries, des films. Voilà. Un film, il me faut après 6 mois pour le regarder. Hein. Un épisode d'une série, c'est 15 jours. Hein. Ça, c'est la vieillesse. Ça s'endort vite, hein, à notre âge. Hein. Tant mieux, comme ça, le matin, je peux me lever tôt pour la revue de presse. Voilà. Donc, voilà. Voilà pour le sommaire. Pas mal, hein. Il y a des choses. Hein. C'est de décaler sur tout le film. Waouh. Merci, Jonathan. Tu les regardes à 3h du matin aussi, c'est vrai. J'ai 29 ans, me dit Anoli Cable. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je dis, c'est vieux. Bon, attends. Ne me dis pas que hein, la vieillesse, c'est le regard des autres, vous savez. C'est pas dans notre tête. Et ne me dis pas que les jeunes, les enfants, les ados ne te disent pas monsieur ou madame. Je sais que tu es rentré dans cette catégorie. Hein. Ou les plus jeunes de cette société te disent bonjour monsieur, bonjour madame, ça te choque. Mais oui, c'est parce que tu n'es plus jeune, 29 ans. Tu n'es plus loin de la tombe. Eh oui. Eh oui. Eh oui, eh oui. C'est déjà le début de la fin. Mais oui, ça fait mal, je sais. Mais oui, il faut s'habituer. J'ai eu 30 ans il y a 2 semaines, 29 ans, c'était jeune. Non, c'était vieux déjà. C'était vieux. Je regarde. Dream Run 65, j'ai 19 ans et on me le dit déjà. Oui, bonjour monsieur. Eh oui. Eh oui, ah oui. Bon, ça fait longtemps que j'ai... Là, c'est dans la tête. Vous êtes vieux si vous décidez de vieux. Ouais. Il y a des gens de 19 ans qui sont vieux. Il y a des gens de 15 ans qui sont vieux. Il y a des bébés d'un jour. Vous avez, parfois, on va voir des amis ou des proches qui ont un bébé et puis il a une tête de vieux, ça arrive. Moi, j'ai vu des... Vous avez jamais vu des bébés avec une tête de vieux? Les bébés sont déjà vieux. Ça existe. Hein? Vous les connaissez, ces bébés-là? Hein? C'est gênant. C'est gênant. Peut-être tu vas voir les... Tu vas voir ton ami ou la famille à la maternité, avec la maman, là. Et puis tu es très fier de te montrer le bébé. Tu dis, ah bah voilà. Et là, dans ta tête, tu fais... Oh la vache! Ouh là qu'il est... Ouh qu'il est pas beau. Hein? Et là, c'est du contrôle social. Là, il faut te rappeler que tu n'es pas un animal, que tu es un humain, que tu es capable de choisir les mots que tu vas utiliser et te composer une réaction quoi. Et donc tu passes de oh, qu'il est laid, qu'il est vieux à qu'est-ce que je dis voilà tu prends bah, le problème ça dépend des gens. Moi le temps de réaction est assez lent quoi. Et donc là faut poker face, petit sourire. Voilà, tu fais reset. Ah. Et là, qu'est-ce que je veux dire? Et tu dis, ah. Et là, qu'est-ce qui ressemble à son père? Voilà. Et alors, pour aller au bout de la blague, ce même enfant qui ressemble à rien là, ça se trouve, 6 mois plus tard, 5 ans plus tard, 20 ans plus tard, c'est un mannequin. C'est un mannequin. C'est un mannequin. Putain, ça veut rien dire. Il y a des enfants qui sont très beaux et qui deviennent des adultes très moches. Et inversement. Il est atypique. Non, tu peux pas dire que c'est atypique. Ça, tu dis ça d'un bien immobilier invendable. Tu mets loft atypique à vendre. Mais tu mets pas ça sur un enfant. Atypique, tu peux pas dire ça. Mes filles sont blondes aux yeux bleus, je suis brun aux yeux marrons. Ok, pas de soucis, tout va bien. Il est. Au collège, les moins beaux sont maintenant les BG inversement. Ok, d'accord, ok. Mon père me disait que j'étais atypique. Ah, Break Mountain, ok. Il travaille dans l'immobilier, non? Il était agent immobilier, non? Ok. Bon, est-ce que trêve de billevesées et de bêtises, est-ce qu'on ferait pour la revue de presse? Oui, on y go ou bien? Let's go, parce que mine de rien, dans 2 heures, je vous abandonne, moi. Hein. Je vais faire de la télé. Hein. Ma mère me disait que j'étais moche à la naissance parce que j'avais le crâne écrasé, mais ça ne se dit pas, ça. Ça ne se dit pas, ça. Au lycée, on avait une théorie, les filles les plus belles avaient les voitures les plus moches, et c'est vérifié. C'est quoi cette théorie de merde? Et Lionel Richie. Au lycée, on avait une théorie, les filles les plus belles avaient les voitures les plus moches, et c'est vérifié. C'est quoi cette théorie, littéralement, de merde? Quel rapport? Ça veut dire quoi, moche? D'ailleurs, ça veut rien dire, moche. C'est relatif, la beauté, hein. Oh, j'ai une photo des enfants, incroyable. Hélène a amené les enfants à l'école ce matin, là. Ils sont beaux. Quel bonheur. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance, hein, quand même, moi. Quand tu vois la gueule du père, quand tu vois les enfants, tu te dis, allez, non, on a eu du bol. Hein. Ils ont beaucoup pris de leur maman. Hein. C'est mieux que gagner l'euro million. Tellement. Et en plus, ils sont gentils. Ça se bagarre un peu, mais. Ces deux garçons, mais ils sont tellement gentils, les uns avec les autres, ils sont tellement complices, c'est cool, j'espère que ça va durer. Là, ce matin, au petit-déj, j'ai la photo sous les yeux, ils avaient un Gaston Lagaffe tous les deux. Ils viennent de découvrir Gaston Lagaffe, là. Et comme ils viennent de s'inscrire à la bibliothèque, je pense qu'ils ont emprunté les albums, là. Quoi qu'ils sont au petit-déj avec les Gaston Lagaffe, c'est les Gaston Lagaffe emprunté la bibliothèque. Et c'est en train de manger le petit-déj, là. Bon, je sais pas si c'est très bien ça. En tout cas, c'est super. Bon, allez, on y va. La dette n'a plus de sous. Dette, c'est la une du monde. La France paie le prix de l'instabilité. L'agence de notation Fitch a dégradé la note de la dette publique tricolore. Donc, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est pas notre économie qui est notée ainsi, c'est spécifiquement notre dette. Lui faisant perdre son double A pour la baisser à A+. Cette décision matérialise, pour le monde, les déboires politico-financiers du pays qui, ces dernières années, n'est pas parvenu à redresser les finances publiques, c'est vrai. On va lire ce papier et d'autres pour comprendre un peu de quoi il retourne. Sur C8, ils font la pub pour la CPAM. Me dit à un moment donné dans le chat. C'est quoi le rapport avec le sujet? T'as fumé ou quoi? Et en plus, la chaîne n'existe plus, C8, ça n'existe plus. Et les gars, quand vous écrivez des choses dans le chat, connectez votre cerveau à votre clavier, hein. T'as un délai de combien entre le moment où t'es écrit et où ça arrive dans le chat? T'as un délai de combien? Tu nous regardes sur un Minitel ou quoi? T'as un délai de 2 ans? C'est trop, hein? C'est une PS1? Tu nous regardes sur une PS1? Allez, lisons. Donc, l'agence a abaissé à A+ la note à garder la dette tricolore devant les difficultés du pays à réduire son déficit. Le temps de l'indulgence est révolu. Devant le déficit public persistant et la dette élevée et en hausse, c'est surtout l'instabilité politique qui complique tout plan de redressement vigoureux. Bah ouais, quand les gouvernements sautent tous les 6 mois. La société américaine Fitch est donc résolue vendredi à sanctionner la France. Elle a baissé d'un cran la note accordée à la dette publique tricolore, passant de AA- à A+. On a perdu notre double A. Donc, l'équivalent d'un 16 sur 20. 16 sur 20. 16 sur 20. C'est pas mal. Et en fait, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux, quoi. Merci, VB Fox. Merci, Daichin. Merci, Review. Merci, Jojo. Merci, Kiki. Nommé mardi soir à Matignon, Sébastien Lecornu n'aura pas connu le moindre état de grâce. La France, certains me le rappellent dans le chat, avait déjà perdu son triple A. Salut, Asborn. La meilleure note possible, signe d'une solidité financière à toute épreuve en 2012 et 2013, selon les agences. En 2012, jusqu'en 2012-2013, on avait un triple A, les gars. Et maintenant, on a un A+. La dégringolade. Hein. Et se retrouve une douzaine d'années pour la première fois privée de son double A par une des 3 grandes agences de notation. La France s'éloigne de qui? De l'Allemagne, de l'Autriche, de la Finlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, les 5 pays de la zone euro qui bénéficient encore du triple A chez Fitch. Putain, les voisins, ils ont encore le triple A, quoi. On est relégué au même niveau que qui? L'Estonie, Malte, l'Arabie Saoudite et la Chine. Le gouvernement démissionnaire a immédiatement pris acte de cette mauvaise nouvelle. Pour Lecornu, la sanction ne peut que constituer un aiguillon supplémentaire pour trouver un accord sur le budget et assainir au plus vite les finances publiques. Eh ouais. Alors évidemment, selon les partis, l'analyse n'est pas la même, quoi. Mais le désormais ex-premier ministre Bayrou a dans la minute adopté un ton plus sombre. Un pays que ses élites conduisent à refuser la vérité et condamner à en payer le prix, a-t-il déclaré. Bayrou qui depuis des années parle de la dette, pour le coup c'est un vrai truc dont il parle depuis longtemps, lui. Et puis, qui n'a pas réussi à convaincre le Parlement qu'il fallait faire un plan d'économie de 44 milliards d'euros. Donc Bayrou rit jaune un peu, quoi. Réaction à la volée du député Éric Coquerel, président insoumis des commissions des finances. Les seuls responsables de cette dégradation sont ceux qui ont dramatisé l'état des finances publiques pour le bénéfice unique de leur agenda politique. Coquerel, LFI, semble dire... Ouais, c'est surtout un... Cette note, en fait, qui a baissé, c'est surtout parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on est dans la mouise, qu'on dramatise l'état de nos finances publiques. Et peut-être que si on n'avait pas fait des caisses, Fitch ne nous aurait pas dégradé, quoi. Le Monde écrit « La décision de Fitch n'a rien d'anecdotique. Symboliquement, elle confirme le déclin français, matérialise les déboires politico-financiers du pays. » Merci à moment donné. Merci à moment donné. Merci à toi, c'est sympa. Alimenté par un déficit public massif, l'un des plus élevés de l'Union européenne. Ouais, ça, c'est factuel. La dette française s'alourdit d'année en année. Alors, plus important que la valeur absolue, le nombre de milliards, on est à 3000 milliards et quelques, de la dette, ce qui est important, c'est le pourcentage du PIB. Voilà. Et bien, même si vous prenez le pourcentage du PIB, elle ne cesse d'augmenter, quoi. 20% de la richesse nationale en 1980, 60% en 2000, 114% actuellement, risque de dépassement de 120% en 2030. En valeur absolue, elle atteignait, bon, je vous le disais, 3346 milliards d'euros fin mars. Des milliards qu'il faudra bien rembourser un jour, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Une dette d'un pays, en soi, n'est pas forcément à rembourser. Voilà. Puisqu'en fait, on emprunte pour rembourser. En revanche, les intérêts, oui. Mais sinon, on ne nous prête plus, en fait. Et là, le pays s'arrête. Et dont les intérêts mangent une partie croissante du budget, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, ben... la charge de la dette, les intérêts de la dette, vous le savez, c'est quasiment, c'est sans doute déjà le cas, devenu le premier poste de dépense de l'État. Et ça, c'est pas normal. Hein. Là, on est en train de dépenser chaque année plus en intérêts de la dette que pour l'éducation, que pour le soutien à l'économie, que pour la santé, que pour l'accompagnement des plus fragiles. Très bonne question, Cyril. Explique-nous comment ça se fait que le pays le plus taxé du monde est aussi le plus endetté. Bah, je sais pas, je suis pas un politique, moi. Bah, sans doute parce qu'on s'y prend comme des manches. Il y a un petit sujet, là. T'as raison d'en parler. Dans ces conditions, les agences comme les investisseurs commencent à s'interroger sur la capacité de l'État français à payer tout ce qu'il doit en temps et en heure. La dette française reste de très bonne qualité, relativise quelqu'un de Natixis. Mais, ok, de qualité, hein, on continue à nous prêter, mais n'est plus de toute première qualité. Et le problème, c'est qu'on va continuer à nous prêter, mais le problème, c'est qu'on va peut-être nous prêter plus cher. Voilà. Et là, on rentre dans une boucle qui est de plus en plus embêtante, quoi. Sur le plan pratique, la dégradation décidée par Fitch pourrait avoir des conséquences négatives, nous dit Le Monde. Les investisseurs ont certes déjà en tête la situation de la France et tiennent compte dans les taux d'intérêt qu'ils exigent actuellement pour détenir sa dette. Donc en fait, ils ont déjà anticipé sur la décision de Fitch. Hein. Ils ne sont pas débiles. Mais en rétrogradant pardon, le pays dans la catégorie simple A, Fitch pourrait amener certains investisseurs à ne plus acheter de dette tricolore, voire à en revendre les titres qu'ils détiennent. Pour faire simple, certains investisseurs, en fait, ils ont des critères pour acheter de la dette. On en a tous de la dette. Hein. Dès que vous avez de l'épargne un petit peu en France, sans le savoir, vous en avez. Et certains gros investisseurs, en fait, ont des critères qui sont des critères automatiques et qui quasiment en mode automatique disent ben s'il y a pas de si c'est du simple A, j'en achète pas. Voilà. Une telle baisse de la demande pourrait contraindre la France à payer des intérêts plus élevés encore qu'aujourd'hui pour placer sa dette. Voilà. Donc il y aura pas de vente forcée massive de la dette française, mais on va peut-être nous prêter plus cher, quoi. Prudence quand même, la réaction du monde financier dépendra aussi du comportement des autres agences. Hein. Après Fitch, ses rivaux DBRS, Scope et surtout Moody's et S&P doivent rendre à leur tour leur verdict dans les prochaines semaines. Moody's, par exemple, pourrait maintenir sa note. À voir. Alors pourquoi Fitch a pris cette décision de dégrader la note de notre dette ? Alors que les derniers chiffres de l'économie française sont pas si mauvais quand on regarde la croissance, quand on regarde le chômage. principal élément en faveur d'une sanction, les turbulences autour du budget. Donc cette crise politique, dont on pourrait dire que c'est pas si grave finalement. Salut Barbie Bobs. Cette crise politique, elle n'est pas sans conséquences. Principal élément en faveur d'une sanction, les turbulences autour du budget. En mars, lors de sa précédente intervention, Fitch avait prévenu qu'elle pourrait abaisser sa note en cas d'incapacité de l'État, du gouvernement, à mettre en œuvre un plan crédible d'assainissement budgétaire à moyen terme. C'est une histoire de confiance aussi. C'est une histoire de confiance. Par exemple, en raison de l'opposition politique ou de pression sociale. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce scénario. L'esquisse de budget, quand Bayrou nous a dit à mi-juillet, on en a beaucoup parlé cet été, hein, qu'il fallait économiser 44 milliards d'euros, ben c'est pas passé. Hein. Le gouvernement Bayrou, il a sauté, quoi. Hein. Le gouvernement Bayrou a démissionné, le pays sort d'une journée de manifestation le 10 septembre pour plonger dans une autre, le 18 septembre, organisée par les syndicats. Quant à M. Le Cornu, dont on va beaucoup parler ce matin, le nouveau Premier ministre, nul ne sait s'il parviendra à négocier un compromis transpartisan. Moi, j'en doute beaucoup, hein. Compromis transpartisan pour faire adopter un budget dans les délais constitutionnels. Dans l'état actuel du paysage politique français, imaginez que les partis arrivent à s'accorder sur un budget, sur des économies, voilà. À moins de faire plaisir à tout le monde, hein, de laisser filer les dépenses. Et dans ce cas-là, c'est encore la dette qui va augmenter. Seule certitude, le PS, dont le soutien paraît indispensable pour faire passer un budget, propose de repousser de 3 ans la date à laquelle la France ramènera son déficit public à moins de 3% du PIB et pourra ainsi stabiliser sa dette. On ne cherche pas à baisser la dette, on cherche déjà à la stabiliser. Alors, petit point positif de temps en temps quand même. D'autres arguments plaidaient pour que la dette, la note reste inchangée. L'économie française tourne à un rythme conforme aux prévisions, même s'il reste faible, plus 0,8% en 2025, on a une croissance qui n'est pas ridicule. L'inflation demeure plus contenue qu'ailleurs en Europe. Le budget en cours d'exécution devrait être contenu. Voilà. Et l'Europe n'a pas réussi à faire plier Trump sur les droits de douane, mais l'accord conclu en août a au moins dissipé le brouillard autour de ce sujet. Mais bon, Fitch, malgré tout, pense que à moyen terme, la France n'est pas capable de réduire sa dette. Fitch, ils sont même inquiets. Au-delà de la présidentielle 2027, voilà, et estiment que les réponses positives à tout ça n'arriveront pas avant un petit moment, quoi. Ça dépend pour qui on vote, hein. Ils nous mettent la pression. Bah oui, l'autre en joie, c'est exactement ce qu'ils font. Ouais. Sur le plan financier, la France fait plus que jamais figure de mauvais élève de la classe européenne, celui qui doit faire ses preuves et n'aura plus droit à la mansuétude. Voilà. Il est pas mal cet article parce que sur un sujet complexe, je trouve qu'il est assez clair, en vrai. Oui, Major Phoenix, t'as raison, c'est le pourcentage de la dette du PIB est... À lui seul motive cette baisse de note. Ouais. C'est marrant, depuis que le Mozart de la finance est au pouvoir, notre note a dégringolé. Alors, ça avait commencé avant Major Tom, mais le président Macron a effectivement une responsabilité dans cette situation, une responsabilité politique, et on va en parler tout à l'heure. Alors, le Figaro se pense aussi au chiffre sur... J'ai pas assez dormi, j'articule pas très bien, désolé. Le Figaro se penche aussi sur ce problème de dette et annonce la mobilisation des patrons et de la droite contre ce cap à gauche que pourrait prendre le gouvernement, puisque dans l'équation politique actuellement, il y aurait cette idée que le gouvernement Le Cornu ne pourrait tenir dans le temps qu'avec le soutien des socialistes. Les socialistes menaient actuellement ce soutien, notamment avec plusieurs mesures, notamment fiscales, hein, pour augmenter notamment les impôts sur les entreprises les plus riches et les ultra-riches en France. Et ça, la droite et les patrons, les chefs d'entreprise, se mobilisent contre ça. Voilà. Ce qui nous vaut cet édito dans le Figaro de Jacques-Olivier Martin, toujours se méfier des gens qui ont un nom de famille, qui est un prénom. on les connaît, toujours se méfier d'eux. Blague à part, lisons. Démagogie intenable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, comme Guy Georges, par exemple, oui. Exactement. C'est les pires, mais oui. Mais oui. Ah non, Antoine Daniel, exception, exception. Émile Louis. Tout à fait. Le pire n'est jamais certain, mais l'incertitude grandit à mesure que la France s'avance dangereusement vers le bord de la falaise. Fitch l'a rappelé vendredi soir en dégradant une nouvelle fois notre dette. Les marchés aussi, depuis des mois, les taux d'intérêt à 10 ans grimpent et l'écart avec l'Allemagne se creuse inexorablement. Patrick Sébastien, bah vous voyez, hein, le camping, tout ça, les enfants, eh oui, c'est vrai. Eh oui, un petit bonhomme en mousse. Voilà, très bon exemple. Cette dégradation sanctionne d'abord la dérive continue et effrayante de nos finances publiques, mais aussi traduit l'instabilité politique qui paralyse le pays au pire moment. Comment croire que nous retrouverons une trajectoire budgétaire crédible aux yeux de nos créanciers alors que plane le doute sur la capacité même du Parlement à voter un budget ? Dans ce contexte, Sébastien Lecornu porte une responsabilité immense. Le nouveau Premier ministre, à la recherche d'un trou de souris pour faire adopter son budget, espère encore arracher aux socialistes, sinon un soutien, du moins une abstention. C'est ce que je vous racontais à l'instant. Mais qu'ils prennent garde ! Monnayer la clémence d'Olivier Faure et de ses députés contre la mise en place d'une taxe Zuckmann, dont on a beaucoup parlé aussi, d'une réduction timide des déficits, de quelques économies cosmétiques, ou pire encore, d'une réouverture du dossier explosif des retraites, serait une erreur dramatique. Le Figaro, qui est un journal plutôt de droite, plutôt conservateur, nous dit « Non, faut pas augmenter les impôts !» Nos créanciers, nos voisins européens, nos concitoyens lucides attendent des mesures à la hauteur du danger. François Bayrou avait chiffré l'effort pour l'année prochaine à 44 milliards d'euros. Il proposait de faire le sale boulot. Il a été sèchement écarté. Sébastien Lecornu peut bien renoncer à la suppression. Merci Cabier qui vient offrir non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais cinq abonnements à la commu. Merci Cabier. Il proposait de faire le sale boulot et était sèchement écarté. Lecornu peut bien renoncer à la suppression de deux jours fériés, a priori ça s'est oublié, comme il a annoncé ce week-end, mais il ne doit rien abandonner sur l'essentiel, l'ampleur de la réduction du déficit. Le Figaro dit, ben, il faut y aller les gars. Le freinage de la dépense publique et surtout le refus des hausses d'impôts. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus national, notamment transpartisan, sur le fait que, oui, la charge de la dette, hein, est trop importante. Gauche-droite. Il y en a. Voilà. Évidemment, c'est sur la façon dont on réduit cette dette que les partis et les Français ne sont pas d'accord. Salut Hugo. Salut Auxiliane. Salut Célimar. Merci des soutiens. Est-ce qu'on augmente les impôts ? Pour tout le monde ? Voilà. Est-ce que, voilà, François Bayrou avait proposé de supprimer l'abattement de 10% des retraités, avait proposé une année blanche, de non-revalorisation des retraites, des minima sociaux. Mais il avait pas été très clair sur est-ce qu'il fallait imposer les ultra-riches et les bénéfices des entreprises qui gagnaient le plus d'argent en France. Il avait proposé des choses. Est-ce que tout le monde doit faire un effort ? Voilà. Est-ce que certains doivent faire un effort ? Est-ce qu'il faut vraiment augmenter les prélèvements obligatoires alors qu'on est un des pays de l'OCDE, si on fait la somme des prélèvements obligatoires, impôts, taxes, etc., les plus imposés ? Est-ce qu'il faut réduire la dépense ? Hein, c'est ce que disent les libéraux. Est-ce qu'il faut réduire plutôt la dépense ? Lesquelles ? Voilà, c'est ça le débat. Vous le savez. Bon, la droite dit il ne faut pas monter les impôts. Hein, pour résumer un peu la doxa libérale, qui est un peu celle du président Macron d'ailleurs, hein, l'ampleur de la réduction du déficit, le freinage de la dépense publique et le refus des hausses d'impôts. Procrastiner une fois de plus, aider aujourd'hui à la démagogie socialiste, dit Figaro, ce serait hypothéquer encore davantage l'avenir. Fitch vient de donner un coup de semonce, entendons-le, dit le Figaro, car sinon nous finirons par chuter dans les abîmes d'une crise financière, économique et sociale, d'une violence inimaginable. Je vous lis. Et là, vous avez un article qui développe ça. Il y a un problème de consentement à l'impôt dans notre pays, les gens ne comprennent pas à quoi sert leur argent, me dit Chose Username. Pourtant, la France redistribue beaucoup. C'est vrai, c'est un des pays les plus qui redistribue le plus au monde. Mais personne ne le voit. Je pense que tu as raison, il y a un souci de communication là-dessus. Il faut bosser là-dessus. Je pense que je suis assez d'accord avec toi. Il y a un souci sur le consentement à l'impôt qui se développe, qui monte en France. Est-ce qu'il est majoritaire? Je ne sais pas, mais il y a un truc là-dessus. Et c'est vrai que je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point on est un des pays au monde qui redistribue le plus. Ouais. Je prends chaque journal séparément, Justin. Jouer. On ne redistribue pas aux bonnes personnes, me dit Louisa. Alors, il y a notamment le débat sur les aides aux entreprises, vous savez, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. À gauche, notamment, c'est disons, si on arrêtait déjà de soutenir à cette hauteur chaque année les entreprises, cet argent, on pourrait l'économiser, ne pas le dépenser ou le dépenser autrement, quoi. Et puis à droite, le discours, c'est ouais, je résume, hein, je suis au café là. Ouais, pays d'assisté, on a été biberonné à l'argent public, au soutien à tout le monde, il va falloir que ça cesse. Ouais. Lisons rapidement cet article. La question des retraites aussi, bien sûr. Je crois que ça rajoute pas grand-chose à ce qu'on s'est lu juste avant. Alors, il y a quand même deux choses qui m'intéressent là. C'est d'abord, regardez, les petits graphiques. Voilà. Le mauvais élève français. Là, c'est le pourcentage du PIB consacré à la dette. C'est nous, tout en haut, là. Voilà. France. Voilà. Déficit public prévu en 2025 en pourcentage du PIB, 5,6%. Mieux que nous, Belgique, Slovaquie, Autriche, Italie, la zone euro en moyenne, Espagne, 2,8% seulement, Allemagne, Pays-Bas, Estonie, Luxembourg, Portugal, Grèce, Irlande, Chypre. La dette publique, cette fois, c'est quoi? Ça c'est déficit public et ça c'est la. Ah oui, et là ils ont séparé. Là c'est la dette publique là. En pourcentage du PIB. Là vous l'avez ici. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est ce qui va se passer maintenant qui est intéressant. Sébastien Lecornu va maintenant devoir, dans les prochains jours, les prochaines semaines, situer le niveau des économies qu'il entend réaliser par rapport à ce cadre. Voilà. Pour l'instant, il ne se précipite pas pour lever le voile sur ses intentions. Une chose est sûre, le Figaro estime qu'une chose est sûre par rapport aux annonces à venir de Lecornu, c'est le refus de la taxe Zuckman sur les très hauts patrimoines, qui est très fermement réclamée pourtant par la gauche, qui, rappelons-le, tout le monde l'a oublié, a été adoptée par l'Assemblée en janvier dernier. Tout le monde oublie que la taxe Zuckman a été votée par l'Assemblée en janvier, voilà, rejetée par le Sénat. Et pourquoi Lecornu, a priori, ne voudrait pas entendre parler parce que la mesure est jugée anticonstitutionnelle par l'exécutif. Même si Sébastien Lecornu admet qu'il existe des questions de justice fiscale qui s'imposent aujourd'hui dans notre pays. Reste la bonne manière d'y répondre pour satisfaire autant les alliés de Lecornu, les oppositions qui peuvent censurer, les agences de notation qui surveillent de près l'élaboration du budget. Eh ben, il y a du boulot. Dans la croix, justement, un petit édito. Édito, c'est un article où l'article, le journaliste donne son avis sur Sébastien Lecornu. Compromis. Fidèle de la première heure d'un président en perte de vitesse dans les sondages, on va en parler de la responsabilité du président Macron dans tout ça. Sébastien Lecornu n'était pas exactement le bienvenu à Matignon. L'opposition de gauche aurait bien vu un des leurs occuper le poste avec eux. Les socialistes disaient, c'est notre tour les gars. Vous vous rappelez du score qu'on a fait aux législatives ? Nommer un premier ministre socialiste ou écologiste à l'Assemblée. L'opposition de gauche aurait bien vu un des leurs occuper le poste, et de concert avec l'extrême droite agitent déjà les spectres de la censure et de la dissolution. Les Français y voient le signe d'une continuité, sinon d'une stagnation, loin de l'idée des ruptures qu'ils prononçaient lors de la passation des pouvoirs avec Bayrou mercredi dernier, puisque Lecornu a dit qu'il allait créer de la rupture. Mais quelle rupture ? L'annonce samedi d'un renoncement à la suppression de 2 jours fériés, donc ça a priori ça s'est acté, hein. Ils vont pas le faire, pour contribuer à réduire le déficit, n'y changera sans doute pas grand-chose. Cette main tendue à la gauche, avec qui le Premier ministre s'est dit prêt à aborder les questions de justice fiscale, de répartition de l'effort, contribue en revanche à faire monter le ton au MEDEF, qui menace une grande mobilisation patronale. Tout à l'heure, je posais la question, ça ressemble à quoi une manif de patron ? Si d'aventure, les impôts des entreprises devraient compenser le manque à gagner. Voilà. Donc à gauche, on essaie de peser sur le gouvernement Lecornu pour plus de justice fiscale. Voilà. Et à droite, et notamment dans les milieux patronaux, on commence à dire « on préchote ». Dites donc, hey, oh, oh, c'est fini, oui ? Un peu comme ça. Reste les discussions avec les partenaires sociaux avec qui il va devoir trouver des pistes pour compenser les 4,2 milliards d'euros que devait rapporter cette suppression au budget. Le nouveau Premier ministre le sait. Sans majorité ni légitimité populaire, il va devoir aligner plusieurs exigences contradictoires pour nommer un nouveau gouvernement et faire adopter le budget. Bordel. Pourquoi tu nous grondes ? Non, non, j'imitais les patrons. Non, non, je vous gronde pas vous, Sarah. La seule méthode pour éviter une nouvelle dissolution reste celle du compromis. Salut Purple Madrox. C'est quoi le popcorn Valorant ? Le compromis, c'est la voie qu'il emprunte. La responsabilité incombe aussi à chacune des parties, députés, syndicats, patronat. À long terme, l'enjeu est de regagner la confiance des Français, chez qui croit la défiance vis-à-vis des politiques, de la démocratie représentative. Jeudi, la journée de mobilisation à l'appel des syndicats sera l'occasion d'en prendre le pouls, puisque jeudi, on a une journée de manifestation. C'est ça le défi de Lecornu. C'est de créer, de réussir à créer ce que aucun premier ministre de Macron a réussi à faire avant. Une concertation, un compromis entre tous ces groupes parlementaires différents pour notamment faire voter un budget. À quel moment on arrive à trouver un texte qui satisfasse tout le monde, en tout cas suffisamment de députés, pour valider, soutenir, voter un budget ? Mission impossible, dit Papa Doc. Moi, ça me semble très, très compliqué. Merci, Vic. Question pour un champion. Est en pleine forme. Les audiences sont au top. Le week-end, mais bon. Tout va bien. Ce soir, 20h, React. On regarde les 2 épisodes de samedi-dimanche et on rigole ensemble. Alors, Libération en parle également ce matin. Joli titre, Lecornu, non pas une impression, mais une pression de déjà-vu, parce que vous avez compris que Lecornu est soumis à plein de pressions de l'opposition, de son camp, de la gauche, de la droite, des syndicats, du patronat. Donc, dans quel monde le gars, il trouve c'est le chemin... Comment tu... Hein ? Dans un pays qui est pas trop porté, justement, à la concertation. Et la pression, il la boit pas ? Très bonne blague de Cyril. Non, je crois que ça lui donne des gaz. Encore moins populaire que Bayrou lors de son arrivée à Matignon, le nouveau Premier ministre est attendu sur tous les fronts entre consultations politiques et mouvements sociaux du 18 septembre. Ça va être assez passionnant, en vrai, à suivre. Est-ce que je vous lis ça vite fait ? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pas mal. À quelle heure? C'est à 20h. Pas mal d'édito. Attends, je suis allé plus loin là. Ah, ce jeu en arrière. Ça, c'est les articles de vendredi dernier. Il est pas mal d'édito, on va le lire vite fait. En cette rentrée, il n'y a pas que la note de la France par Fitch qui soit dégradée. Le climat social, dégradé. La capacité de dialogue politique, dégradée. La confiance des Français en leur Premier ministre, dégradée. La calvasse de Samuel Etienne, dégradée. Libération, calmez-vous. Sébastien Lecornu vient juste d'entrer à Matignon, mais la sortie paraît déjà toute proche. La seule coalition qui tienne est celle qui, des partis politiques au patron, en passant par les agriculteurs et les syndicats, semble s'être donné le mot pour lui mettre une pression maximale à peine franchie. Le perron de Matignon. Le premier qui rigole, je le banne d'Ev. Lecornu a voulu pourtant donner très vite des gages de sa bonne volonté. Il met en scène la suppression des deux jours fériés. Il promet de discuter de justice fiscale. Est-ce qu'il faut y voir une ouverture vers la taxe Zucman? Tout à l'heure, un journal nous disait qu'il y avait peu de chance. Je vous ai vu à Buffalo Grill ce week-end. C'était pas moi, Tony Merguez. Si un gars, Tony Merguez, que tu as croisé à Buffalo Grill ce week-end, t'as dit... salut Tony Merguez, comment tu vas mon pote? Ça te dérange pas de payer ma table avec mon épouse et mes enfants parce que j'ai oublié mon portefeuille? Tu t'es fait enfler, tu t'es fait arnaquer, tu t'es fait scammer. J'étais pas à Buffalo Grill ce week-end. Désolé, mon pauvre. Ça t'est coûté cher? Ça se trouve c'était Julien Lepers. On a mangé dans un restaurant chinois hier midi avec la famille. Ça se trouve, c'est Bayrou, ça se trouve. Tu t'es fait Brad Pitté, tu t'es fait Brad Pitté. Donc, Tax Zucman, est-ce qu'il va s'engager sur une méthode douce? Il pourrait par exemple dire qu'il ne va pas utiliser le 49.3. Mais changer la forme ne change pas les désaccords sur le fond, et on est bien en difficulté d'imaginer quelle voie de consensus il pourrait trouver. Libération, résumant en 4-5 mots ce que je dis beaucoup plus longuement, hein, on est bien en difficulté d'imaginer aujourd'hui quelle voie de consensus il pourrait trouver. Est-ce que ce fidèle de Macron, Lecornu, peut-il vraiment cesser de faire du macronisme? Il n'a certainement jamais été aussi difficile d'être et de droite et de gauche. Le président Macron a réussi son pari, il reste la seule constante du pays. Sans droite ni gauche, il n'y a plus que lui. Mais seul, on n'accomplit rien, on est responsable de tout. Plus grave, Macron a presque perdu tous les Français, ne créant que des insatisfaits. On a l'impression que tous les Français sont insatisfaits aujourd'hui. Et quoi, tu ferais quoi? Et toi, tu ferais quoi pour sortir le pays de ses difficultés? Ariane, tu vas dans mon chat Twitch, tu tapes point d'exclamation 2027 et tu as le début du programme. Et là, je vous explique la méthode. Parce que moi, je vais sauver la France. Avec votre aide. Point d'exclamation 2027 dans le chat Twitch. Et je vous donne les clés du projet. Et ensemble, on va sauver la France. En 2027. Donc les Français insatisfaits. Et pour cause, quel horizon nous propose l'exécutif aujourd'hui? Des économies de bout de chandelle. Réduire une dette qui reste bien abstraite pour les Français confrontés chaque mois à leur propre découvert. Bah ouais. Sans compter le détricotage du modèle social de la France. Dans ce pays qui ne résonne plus qu'en chiffres, ah ouais, c'est vrai qu'on parle plus que de ça, hein. Des déficits, de l'immigration, de l'âge de la retraite, les calculs politiques sonnent à présent tous faux. À en juger par la colère qui monte de toutes parts, Lecornu n'a pas encore trouvé les mots justes pour réparer les mots. Certains disaient tout à l'heure dans le chat, mission impossible. Pas mal, c'est pas mal ça. Ah! Je vais me faire un petit. Ça vous dérange pas si je mange un petit expresso là? J'ai pas si dormi. Et là, pour la responsabilité de Macron dans l'effondrement actuel du système politique, il me faut un petit café. Ok? Bougez pas. Ouais, pour 10 secondes. Soyez sages, hein? Je l'ai mis à couler. Comment ça, café Red Bull? Ah ouais, je suis crevé. Il coule ou pas le café là? Ah, ça y coule. Mais c'est vous?
C'est moi, Monica, c'est moi.
C'est Brad Pitt. Red Bull, très mauvais pour la santé. Oh, Major Phoenix, je suis une machine, moi. Je suis une machine. Je vais vivre 130 ans, moi. Je vais vivre 130 ans, moi. Vous savez ce qui va vraiment couler la France? Vous savez ce qui va couler la France? Vous savez ce qui va mettre au sol notre système de retraite? C'est moi. C'est les dizaines d'années de retraite que je vais prendre. C'est ma retraite. Alors, c'est maintenant le café, on peut y aller. Emmanuel Macron est largement responsable de l'effondrement actuel du système politique, analyse de Rémi Lefebvre, qui est un politologue, professeur de sciences politiques. Et il écrit, je trouve l'article assez intéressant, « Nous traversons une crise politique d'une gravité historique. Elle est le produit d'une longue usure des institutions et d'une accumulation de désenchantements nourris par des alternances sans alternative » dont le cycle infini a nourri la défiance, l'extrême droite et la fragmentation politique. Merci Pierre, merci Auxiliane, merci Slimard pour les soutiens. Merci Poulineau, Olivier Mazochin et René. Depuis un an, le fait du prince a conduit à une dissolution de confort, la dissolution, décidée sans concertation, d'autant plus inconsidérée que le RN était aux portes du pouvoir. Le président de la République n'a pas pris en compte le résultat des urnes, jugeant non négociable une politique de l'offre, donc c'est sa politique économique, pourtant massivement rejetée par l'opinion et à l'origine d'une aggravation des déficits et de la dette. Macron n'est pas le seul responsable de l'accroissement de la dette française, mais aujourd'hui, quand tu te penches sérieusement sur le sujet, tu te rends compte qu'il y a contribué beaucoup, notamment avec la réduction des impôts pour les particuliers et pour les entreprises, et aussi pour le soutien aux entreprises décidées par sa politique de l'offre. Donc, bonne ou mauvaise politique, c'est pas la question que je pose là, mais en tout cas, elle a eu un coût et des conséquences importantes sur la dette française. Ça, on avait bossé là-dessus il y a quelques jours. Personne n'a gagné, mais lui estime qu'il n'a pas perdu. Après deux échecs programmés de Premier ministre issus d'un bloc central minoritaire, retranché dans sa citadelle élyséenne, le président s'entête et nomme donc à Matignon Sébastien Lecornu, un de ses proches et derniers fidèles, hein, qui vient de la droite, qui est un macroniste de droite. Pire, il fait la leçon au parti, leur enjoignant de régler une situation de confusion qu'il a lui-même créée. Mais la responsabilité d'Emmanuel Macron est plus ancienne, écrit ce politologue. En 2017, premier mandat, le président disruptif pouvait être une réponse à une crise démocratique déjà aiguë. C'est pas lui qui a inventé tous les problèmes de France, hein. En deux mandats, il l'a pourtant approfondi, cette crise démocratique. Il a abîmé la politique, amplifiant le profond dégoût qu'elle suscite désormais pour la société. Il semble d'ailleurs jouir de la large détestation qui le met obsessionnellement au cœur du jeu politique. Emmanuel Macron voulait dépasser le clivage gauche-droite, faire de la politique autrement, apaiser, décrisper la vie politique, ça c'était un peu la promesse. Elle n'a jamais été aussi conflictuelle et fragmentée. Il était dégagiste et il s'est construit contre la corporation et le serail politique dans une extériorité populiste d'emblée artificielle. Il a pourtant, par sa suffisance, sa morgue et sa condescendance sociale pour des Français jugés réfractaires, exacerbé la défiance à l'égard des élites politiques. Il entendait être jugé sur la baisse de l'extrême droite. Elle n'a jamais été aussi puissante et menaçante. On impute l'impasse politique actuelle à l'absence de culture de compromis, en l'attribuant à juste titre à l'hyper-présidentialisation de notre système politique. Mais c'est aussi la pratique du pouvoir qui, depuis 8 ans, rend si difficile la négociation politique. Emmanuel Macron a été le président le plus mal élu de la 5e, non pas en suffrage exprimé, mais par l'agrégation inédite de votes utiles et par défaut qui lui est assuré deux victoires d'affilée contre l'extrême droite. Et en quelque sorte, pardon, petit coup de froid. Et en quelque sorte, il a été mandaté à deux reprises pour faire barrage au RN. Le fameux « ce vote m'oblige », exactement, pied plus. Parce que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de Français non macronistes qui ont voté pour Macron pour faire barrage au RN. Et il avait dit « ce vote m'oblige », il avait dit qu'il entendrait ce vote des Français. Pour faire ce que tout président de la 5e devrait faire d'ailleurs, être le président, non pas des gens qui ont voté pour lui uniquement, ou des macronistes, mais le président de tous les Français. C'est ça la mission du président de la 5e République, qui a été oublié par plusieurs présidents d'ailleurs. Hein, c'est de ne pas être le président d'un camp, c'est d'être le président de tous les Français, ce que je serai en 2027. Cette légitimité fragile aurait dû l'inciter moralement à l'ouverture. Le soir des second tours, en 2017 comme en 2022, il s'est engagé à prendre en compte les électeurs éloignés de son camp qui ont contribué à cette désignation. Votre vote m'oblige. Mais il a trahi cette promesse, estimant que ces deux scores massifs de second tour étaient un blanc-seing pour imposer une politique économique pourtant devenue rapidement impopulaire. L'espace central occupé par le macronisme aurait pu être un lieu de dialogue, de conciliation. Il n'a été que celui d'une dogmatisation. Les oppositions, même les plus modérées, n'ont pas été prises en compte. C'est vrai, ça? En se positionnant dans un centre fermé, renvoyant dos à dos les oppositions, le chef de l'exécutif a repoussé chaque camp vers les extrêmes, accentuant de fait la polarisation de notre vie politique. Emmanuel Macron est le président d'une démocratie devenue minoritaire, où l'on gouverne sans réelle assise électorale, et négative, les électeurs votant surtout, non pas pour quelqu'un ou un parti, mais contre. J'ai plus l'alerte Chirac. Non, c'est une alerte de don, ça, pour le Ziyad. Pour passer en force et contourner la volonté des citoyens, il s'est appuyé comme jamais sur les ressources d'un présidentialisme désormais radicalisé. Il a assumé une verticalité du pouvoir inédite qui a crispé les oppositions pour imposer à marche forcée l'adaptation de la société française à la mondialisation, quitte à ce que cela soit parfois contre son intérêt. Ce président condescendant a exercé le pouvoir en solitaire. Il a veillé avec constance à empêcher la constitution de tout contre-pouvoir dans son propre parti, tout en infantilisant une majorité parlementaire à la marge de manœuvre quasi inexistante. C'est assez bien vu quand même. Il a non seulement toisé les corps intermédiaires, les maires, les syndicats et même la CFDT, dont il aurait pu se faire une alliée, mais aussi instrumentalisé la démocratie participative de conventions citoyennes manipulées en cahiers de doléances enterrées. On y a cru ça aussi à un moment. La parole aux Français, hein, les concertations, les conventions citoyennes. C'est pas faux, ça. Dans une 5e République à l'agonie, le décalage est désormais immense entre la captation croissante du pouvoir par l'exécutif et la base de légitimité de plus en plus faible dont il fait l'objet. Ce qui nourrit ce profond sentiment que nous connaissons de dépossession démocratique. Je croyais que les journalistes ne devaient pas montrer d'opinion, on est plus sur une opinion que sur le rapport des faits. Je croyais, cher Onyx, que tu étais attentif surtout. Que je vous ai dit au début de cet article, que c'était un politologue qui écrivait. C'est pas un journaliste, c'est un spécialiste de sciences politiques. Faut écouter, bordel. Pff, fatigue. J'espère que vous écouterez plus mon programme en 2027. Non, c'est un spécialiste de sciences politiques là qui s'exprime. Alors, fin de l'article est très intéressante. Si Emmanuel Macron est en cause et si sa personnalité explique beaucoup, il ne faut pas céder au psychologisme. Emmanuel Macron est un technocrate qui vit dans la certitude épistocratique et inébranlable qu'il n'y a pas d'alternative et que la politique de l'offre, c'est sa politique, doit être sanctuarisée parce qu'elle procède du domaine de la raison. Il n'a jamais été élu avant son arrivée à l'Élysée, ni à l'Assemblée, ni à la tête d'une mairie. autant de fonctions qui acculturent leur titulaire à un sens du compromis et de l'écoute, c'est intéressant, dont il semble dépourvu par sa socialisation même. Bon, moi-même, je n'ai jamais été élu. Hein. Voilà. Mais en même temps, on débat sur Twitch tous les jours. Donc on est un peu habitué aussi à rechercher, à s'écouter, à se parler. Je dis ça, je dis rien. Emmanuel Macron, élu sans parti, sans mandat préalable, par effraction, comme il l'a lui-même théorisé, vit dans l'illusion de s'être fait tout seul. Il estime ce faisant n'avoir de compte à rendre à personne, de voir tout à lui-même, ce qui nourrit chez lui un sentiment de supériorité et une hubris. Isolé dans sa démesure, il reste claquemuré dans son palais. La colère gronde, une partie de la société veut tout bloquer car tous les instruments et toutes les médiations de la citoyenneté sont épuisées. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un message dans le chat que je trouve intéressant. De quelqu'un qui songe à créer une chaîne Twitch sur le thème de la paléontologie et qui aura bien besoin de petits conseils, de coups de main, peut-être pour construire sa chaîne. Je vous l'épingle, n'hésitez pas à lui envoyer des DM à aplasmagui, aplasmagui dans le chat, ok? Donc voilà, je trouve que la façon dont la situation est dépeinte ici est plutôt, plutôt intéressante, quoi. Voilà pour la politique. Après, on part sur le sport. Non, mais le portrait de ce président, finalement tellement convaincu que la seule politique possible, c'est la sienne, qui a été relativement peu à l'écoute des Français pendant ces deux mandats. Merci Bloody Mary, merci Pierre, merci René, merci Justine Dallas. Relativement peu à l'écoute des Français, totalement pas à l'écoute des corps intermédiaires, hein, des élus locaux, des syndicats, des représentants, des oppositions, que tout ça a nourri ce fossé grandissant qui avait été créé bien avant, hein, entre les Français et les politiques, quoi. Il n'a pas créé cette crise, mais il y a contribué. Voilà. C'est dans Le Monde, page 25. La mission d'un président, d'un chef de l'État, elle n'est pas seulement de tenter d'appliquer le programme pour lequel il a été élu. C'est peut-être en fait l'erreur qu'a fait Macron, si j'ai pu me permettre de prendre un petit peu de recul. Le président Macron a été élu avec un programme. Forcément, quand tu te présentes à la présidentielle, tu as un programme. Un programme libéral. Un programme de soutien à l'économie, etc. Rien de ce qu'il n'a fait sur un plan économique n'était annoncé. Hein. Tout avait été annoncé. Donc lui, il peut prendre cet argument en disant hey, « Les gars, vous avez voté pour moi, il y avait un programme, vous avez voté pour, il a été appliqué. Hein » Sauf que il oublie qu'il a été élu dans des circonstances particulières avec des gens qui ont voté pour lui puis des gens qui ont voté pour pas voter pour l'autre. Hein, un front républicain, un vote de barrage. Et donc, dans cet argument, j'applique le programme pour lequel j'ai été élu, pour lequel vous avez voté. En fait, il y a un truc qui n'est pas rigoureux, qui n'est pas totalement honnête. Voilà. Il a oublié ou il occulte, et Neil, t'as raison, le fait qu'il n'a pas été élu que par des gens qui votaient pour son programme. Et donc, cela l'obligeait, et d'ailleurs, il l'avait dit, ce vote m'oblige, à être à l'écoute de ce que souhaitaient réellement les Français. Et puis comme il était persuadé de la justesse de ce qu'il allait faire, il l'a fait, et il continue à s'entêter là-dessus. Et donc pour revenir à ce que je voulais dire, la responsabilité d'un président, ça n'est pas seulement de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Un programme, c'est un instant T, c'est une élection. Mais en fait, un mandat, c'est 5 ans. C'est même 2 fois 5 ans, en l'occurrence pour le président Macron. Et pendant ces 10 ans, ben il faut être à l'écoute. L'écoute du pays ne doit pas se résumer à une élection, à 2 week-ends de vote, à 2 dimanches de vote. Un président, il doit être à l'écoute de son pays, H24, pendant la durée de son mandat. Voilà. Et d'essayer autant que faire se peut, de créer, alors, un sentiment de concorde, on va pas exagérer, mais un climat où les Français ont un minimum de confiance dans leurs représentants, quoi. C'est aussi l'une de ses responsabilités. Alors, ça c'est bien beau ce que je dis, mais après la question c'est, quand tu veux écouter tout le monde, hein, les différents syndicats, les différents partis, etc., tu ne peux rien décider, parce qu'évidemment, les Français eux-mêmes sont divisés sur tous ces sujets aussi importants que la dette, la retraite, les retraites, notre système social, le soutien aux entreprises, quelle fiscalité, etc. Donc évidemment, si tu écoutes tout le monde, tu ne tranches jamais. Et la responsabilité du chef de l'État, c'est de trancher. C'est de décider. C'est de réformer. Voilà. C'est là où je pense qu'il y a une nouvelle pratique de nos institutions, notamment par la pratique du référendum, qui peut permettre de faire ça, de décider, d'avancer quand même. Voilà. En mettant aussi les Français devant leurs responsabilités, en leur demandant, sur toute une série de réformes, concrètement par le référendum, si on y va ou si on n'y va pas, quoi. Dans le chat, Twitch, point d'exclamation 2027, vous avez le début de ça, quoi. Merci Cyril. Merci Princesse Fiona. Merci Bloody Mary. Bon, voilà, après cette grosse page politique, j'accélère puisque dans une heure, je vous abandonne et il me reste plein d'actu à évoquer avec vous. Donc j'accélère un petit peu. Bon, on parle pas que de politique dans cette revue de presse le matin, même si on en parle énormément. Et on va parler un petit peu de sport, on va se féliciter de cette dinguerie qu'a fait ce monsieur ici, voilà. Qui n'est pas un combattant de MMA, hein, contrairement à ce que l'image pourrait laisser penser là, mais un athlète français qui a fait une dinguerie puisqu'il est devenu champion du monde de 10 000 mètres, Jimmy Gressier, 28 ans. Gamin de Boulogne sur mer à l'enfance difficile, sacré hier à Tokyo sur 10 000 mètres, hein, des Français champions du monde, il n'y en a pas eu des caisses. Une distance que beaucoup pensaient inabordable. Finish de fou, regarde la vidéo, on va aller voir la vidéo. On va essayer de voir la vidéo, ouais. L'image est folle, irréelle, dit Sandrine Lefebvre, envoyée spéciale du Parisien à Tokyo. La bouche grande ouverte, les yeux écarquillés, Jimmy Gressin ébahi se prend la tête entre les mains, la chaleur est intenable, il faisait très chaud, très, très humide à Tokyo, mais le Français, le visage ruisselant, vient de créer l'une des plus grandes, écoutez, c'est de l'histoire, hein. C'est pas du sport là, c'est de l'histoire, une des plus grandes sensations du sport tricolore, merci Pilou, en devenant champion du monde sur 10 000 mètres, distance qu'on pensait réservée aux coureurs africains. Et il a beau être courageux, il avait beau répéter qu'un jour il deviendrait champion du monde, on osait rêver que ce gamin du Pas-de-Calais qui a grandi dans le quartier du Chemin Vert, le même que Franck Ribéry, serait récompensé de tous ses efforts. Gressier était un besogneux, un type extraordinairement courageux venu au sport. On n'oublie pas, Ajlovic, j'en dirai un mot parce que je l'ai lu ce matin aussi ça. Un besogneux, un type extraordinairement courageux venu au sport pour éviter de tomber dans les travers des quartiers défavorisés. Il se rêve footballeur professionnel, un éducateur sportif le repère, lui persuade de tenter sa chance sur la piste, suivent des années de labeur, d'obstination, de persévérance. Avec une idée en tête, gagner, pour lui mais aussi pour les siens. Sa maman, qui a décroché son premier contrat de travail en devenant salarié de la boîte qu'il a créée lui, ses frères et ses sœurs, et son grand-père, ancien docker, qui conserve précieusement les maillots, les trophées de son petit-fils, et pour qui Jimmy donnerait tout. Donc là, on parle de son grand-père, dont il est très proche. Il est très proche de sa famille aussi, voilà, donc il y a plein d'explications sur son parcours. Sans filtre, parfois, il... Pareil, qu'il a ses caches. Sans filtre, parfois, la tête parle de son enfance, de certains de ses proches qui ont pris un mauvais chemin, de son séjour au début de l'adolescence dans un camp de gitans. Voilà. Peut-être plus que n'importe quel athlète, Gressier nous touche, parce qu'avec lui, n'importe quelle course a un sens. Voilà, des années que Jimmy déroule son plan de carrière. Il a notamment démarché de nombreux sponsors des Hauts-de-France pour l'accompagner dans son projet. Il y croyait, hein. On va aller voir la course. Après, on lira un autre article dans l'équipe aussi. Là-dessus. Voilà, course stratégique avec un chrono très lent. On n'a pas battu un record du monde. Les conditions météo, la chaleur, l'humidité faisaient que c'était impossible. En revanche, il a très bien géré sa course. Ouais. Et on va essayer d'aller voir la course. Légende de Jimmy. Alors, où est-ce que je vais vous trouver ça, moi? On essaie de trouver les images de la course. Je l'ai. Oh, je l'ai, je l'ai.
Tiens, c'est bon.
Ok, je l'ai. Ok. Je pense que je l'ai. Peut-être pas. Ah si, je vous mets les 28 minutes, moi. Ah si, si, moi je vous mets les 28 minutes. Hein. Ah bah si, je vous mets tout. Ah bah si. Vous êtes prêts? Non, non, j'ai un petit résumé de 4-43 là.
Couru cet hiver, 7-22 en salle. Il était dans une forme incroyable cet hiver.
Ouais, mais Jimmy Gressier l'a battu en finale de la
Diamond
League
sur 3000 mètres.
Entre ça, là. Alors, bon, alors évidemment, l'histoire est belle. Quelqu'un dans le chat m'a dit tout à l'heure on n'oublie pas qu'il a été accusé d'agression sexuelle. Alors moi je veux être complet. Les articles n'éludent pas ça, effectivement, et reviennent sur cette histoire pour la rappeler, pour dire qu'effectivement il a été, il y a eu l'ouverture d'une enquête et qu'il a été relaxé dans cette affaire. Voilà. Comme quelqu'un m'a dit, il faut pas oublier que, bah, effectivement, voilà. Et d'ailleurs aujourd'hui, il en parle lui-même en disant que certains, ce sont ces mots, je les ai plus là sous les yeux, ont voulu le faire passer pour quelqu'un qui n'était pas. Et que la justice, donc, l'a relaxé. Faute de preuves. Qu'on ne me reproche pas de ne pas avoir évoqué tous les aspects de cette information. Voilà pour cette actualité. Bon, du sport à l'e-sport. Magnifique. Et encore un cocorico. C'est nous les meilleurs. C'est tout. C'est tout. La France sur le podium de l'e-sport mondial. En cette rentrée, plusieurs compétitions majeures d'e-sport sont organisées en France. C'est chez nous. Qui s'affirme de plus en plus comme. Mesdames et messieurs, en une petite dizaine de jours à peine, Lyon et la France auront été le centre névralgique de la planète e-sport. Il y a une semaine, l'équivalent des championnats du monde de Fortnite se sont déroulés sur 3 jours dans la salle LDLC Arena. Une réussite populaire avec des gradins pleins à craquer, certains y étaient peut-être dans le chat, du vendredi 5 au dimanche 7, ainsi qu'un record vieux de 6 ans pour une compétition Fortnite battue en ligne avec un pic à plus de 950 000 spectateurs instantanés enregistrés sur l'ensemble des plateformes de streaming diffusant le tournoi. Vous y étiez ? Vous y étiez. Certains y étaient. Cerise sur le joystick ? C'est l'équipe française Gentlemates qui a remporté cette compétition dotée d'un prize pool, l'ensemble des gains de 2 millions de dollars. C'était à Lyon, ouais. On ne s'attendait pas à un tel succès, on était proche d'une ambiance de foot dans les tribunes, a fait valoir le producteur des tournois. Rebelote du 12 au 14 septembre avec l'équivalent des championnats du monde de Rocket League, hein, prize pool de 1,2 million de dollars. Pour info, mon proprio est un membre de Vitality Antiquaire. Marrant. Toujours à la LDLC Arena, dont les billets ont été pris d'assaut en quelques heures à peine, comme pour le tournoi de Fortnite. Rentrée faste en compétition pour les fans français d'e-sport qui vont avoir des à Paris. Mais fais ce que tu veux. Va sur France 3, tu fais quoi ici, gros? Salut Poupito, bonne sieste. Tu as le droit de réécrire dans ce chat, mais à partir de demain. D'ici là, tu auras le temps de te faire une petite tisane. Bisous, cœur sur toi. Petit con. Oui, donc Riot m'a dit, fais ce que tu veux, Samuel, sauf que j'ai pas d'idée encore. Je sais pas quoi faire encore. J'ai pas d'idée, j'ai trop de dossiers, trop de taf sur d'autres trucs. Et il faut que je trouve une idée. Mais je ne l'ai pas trouvé encore. Donc ce sera, voilà, notamment pour les phases finales. Dans la foulée, Nice accueillera le week-end suivant une édition de l'Evolution Championship Series. Donc l'équivalent de la Coupe du Monde des jeux de combat en 1 contre 1. On parle de quoi là? C'est quoi? C'est du Street Fighter, truc comme ça, non? C'est ça. Une grande première en France, toutes ces compétitions sont un marqueur fort de la place de plus en plus importante de la France au sein de... C'est ça? Versus Fighting? C'est ça. Ok, d'accord. De la France au sein de l'e-sport mondial. C'est une année historique dans le développement de l'activité e-sport en France, abonde Bertrand Amar, directeur de l'e-sport chez Webedia. Bertrand, qui est un vieil ami qu'on a reçu dans Simplay, notamment, hein, qui est un de ceux qui suit le monde de l'e-sport depuis très longtemps. L'industrie bénéficie des succès qu'ont été les grandes compétitions e-sportives organisées récemment en France, comme le Major de Counter-Strike à Paris ou les finales du LEC et des MEA Masters, donc LOL à Montpellier en 2023. D'autant que sur le terrain, les équipes françaises brillent. On ne fait pas qu'organiser des événements. Hein. Cette année, Vitality s'est imposée comme la première équipe mondiale sur CS, sur Counter-Strike. On en parlait hier soir avec Shoachin, mon invité. Bertrand, joueur pro Pikmin, exactement. Il a déjà remporté 7 tournois. En mars, la K-Corp a, elle, été sacrée championne d'Europe sur LoL et domine sur Rocket League. C'est vrai ça, la K-Corp, ils sont bien comme ça en ce moment. La KC a 1 BO des Worlds de LoL. C'est fou ça. Tout critère confondu, la France figure aujourd'hui dans le top 3 de l'e-sport mondial. Quoi? Quoi? La France figure aujourd'hui dans le top 3 de l'e-sport mondial. Quoi? Derrière la Chine et la Corée du Sud qui restent leaders devant les États-Unis. Estime Bertrand Amar. Je regarde votre émission à Pattaya où je suis retraité. La vraie vie. Voilà, Ange qui est à la cool. Non, c'était pas toi que je traitais de petit con pour tout. C'était un de tes collègues. Mais, voilà. Mais du coup, je te dis aussi à demain parce que t'es un petit peu énervé. Pontouze. Faut être fatigué quand même. Cette âge d'or donc pour le jeu vidéo compétitif tricolore intervient alors que les années post-Covid ont été rudes pour l'écosystème. Ce sont les clubs qui nourrissent ce renouveau et dynamisme. Pointe Alexandre Job, président du club Galion. Ces dernières années, on a vu apparaître des clubs mixant des influenceurs, bon, on pense à Gentlemates notamment, et des joueurs professionnels comme Gentlemates, Squeezie, Gotaga et Brooks, et bien sûr, on n'oublie pas K-Corp avec Kameto et Prime, qui ont attiré énormément de fans vers l'industrie. C'est pas mal en vrai. Terre d'e-sport, c'est nous. L'Hexagone se distingue par ses communautés de supporters enthousiastes, se déplaçant en masse pour soutenir leur équipe favorite lors des tournois. Une ferveur qui assure la rentabilité des rencontres et ravit les éditeurs de jeux vidéo qui choisissent de plus en plus la France pour accueillir les grands rendez-vous e-sportifs de leur franchise. Il y a un mouvement général de structuration de l'industrie française de l'e-sport. Il y a des grands clubs de grandes figures et cette montée en puissance attire les investisseurs, les marques et les organisateurs du tournoi Cercle Vertueux. C'est beau ça. Merci Haïm. Merci Moshiko, merci Nicolas, merci. Merci Aurel, merci Jérôme, merci Kefkef. C'est beau quand même. Hein. C'est incroyable. Vous saviez que l'e-sport en France se portait aussi bien, vous? On est le meilleur public e-sport, me dit Kaiser José. Kaiser José, joli. Oui, vous saviez-vous. Ah, vous saviez-vous. Il savait déjà. Ça sert à quoi? Ça sert à kiffer, de Moon Jae. Non, juste derrière la Corée, d'après Bertrand Amar. En vrai, depuis 2 ans, me dit Gromain, en vrai, beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup d'engouement. On est reconnu comme un super public, me dit Marilyn. Faut vivre dans une grotte pour ne pas le savoir ou pas suivre les compétitions e-sport. Dis donc Azema, je te rappelle que j'ai représenté l'équipe de France sur Valorant à Berlin. Hein. Donc doucement les tacles. Hein. Je suis officiellement le joueur le plus vieux joueur à avoir joué sur la scène VCT mondiale. Hein. Donc mollo. Hein. Je n'observe pas la scène e-sport, j'y participe. Hein. Je vous rappelle que j'ai un classement officiel de compétiteurs e-sport moi. Alors. Merci Julio Franchute. Alors. Ça raconte quoi là? Voilà, page VLR et vous les noobs. Merci Sugar. Je suis parti sur eux. Il y a 1h30, tu es toujours sur cet article. Non, mais tout à l'heure, c'était le sommaire. Tout à l'heure, Yaya, là, on le lit. Je n'observe pas l'e-sport, je le façonne. J'adore. Oui, bon, bah, je sais binder mes touches. Moon, c'est juste que là, on avait oublié de binder la touche de Defuse. Ça arrive même au meilleur. Hein. Les amis, alors là, j'étais un peu dubitatif au début, je me suis dit, quoi cette histoire? C'est vrai ce mensonge? Bah, Otmas, tu tapes Samuel Etienne, Berlin, Google, Google Images, Google Vidéo, ce que tu veux, tu vas voir. Eh ouais. Ça dit quoi? Il y a même un stream entier sur l'événement. Au début, j'étais un peu dubitatif. C'est un article dans Les Échos. Alors, Les Échos, c'est un journal qui s'intéresse vachement à l'actualité du jeu vidéo. Voilà. Journal économique, certes, qui s'intéresse au jeu vidéo. Alors, du coup, par le prisme de l'économie. Mais qui fait souvent des articles sur, bah, la preuve d'ailleurs, sur le jeu vidéo en France, sur l'e-sport, les sorties de jeux et tout. Quoi. Et là, on a un article sur un jeu français, mais qui n'est pas sorti encore. Je me dis, que c'est une histoire. Le studio français derrière le jeu Darwin's Paradox boucle nouvelle levée de fonds. C'est un article sur un jeu qui n'est pas encore sorti, mais je suis allé voir le trailer et en vrai, j'ai trouvé ça plutôt cool. 3 ans après sa création, ZDT Studio vient de mener à bien un deuxième tour de table avec les fonds levés. Ce studio indépendant va pouvoir se concentrer sur la sortie de son premier jeu vidéo et travailler sereinement sur le deuxième qui est en pré-production. Voilà. Voilà. En attendant de séduire les gamers, ZDT pour The Dream Team, joli, studio a convaincu les investisseurs lancés en 2022. Ce studio indépendant de développement de jeux vidéo vient de boucler une deuxième levée de fonds. Voilà. Le groupe français voit entrer à son capital, notamment Pix Capital, qui est un fonds d'investissement sur le jeu vidéo. BPI France remet de l'argent, etc., etc. Selon nos infos, nous disent Les Échos, cette opération valorise le studio tricolore à plus de 10 millions d'euros. Contre 2 millions lors de sa première levée. Voilà. Avec ses fonds, ZDT va donc pouvoir se concentrer sur la sortie de son premier jeu. On va aller voir le trailer dans un instant, parce que je l'ai trouvé plutôt OK. Darwin's Paradox, et commencer à préparer le deuxième. Quasiment terminé le jeu. Darwin's Paradox a tapé dans l'œil des Japonais Sony, qui l'a mis en avant lors de sa conférence de février dernier, et Konami, qui sera l'éditeur du jeu. C'est pas mal, en vrai. Donc studio indépendant, mais qui va être bien accompagné, quoi. Le studio conserve la propriété intellectuelle du titre et le budget de développement du jeu a été porté à 4,5 millions d'euros. Merci Piafou. Voilà. Initialement, alors quand est-ce que ça sort cette histoire? Initialement prévu pour la seconde moitié de 2025, le jeu n'a pas encore de date de sortie fixée qui devrait être dévoilée dans les prochaines semaines. Je suis un petit peu hypé parce que je suis allé voir le trailer, on voit ça a l'air pas mal. Jeu d'aventure, plateforme et de réflexion, Darwin, donc plateforme et réflexion, Darwin's Paradox permet aux joueurs d'incarner un poulpe arraché à l'océan par un étrange faisceau lumineux qui se retrouve piégé dans un complexe industriel. Voilà, graphisme léché entre le jeu vidéo et le film d'animation. Voilà. Et vous savez quoi? On va aller voir le trailer. On va taper trailer. Si on arrive à connecter ses doigts au clavier et au cerveau, trailer Darwin's Paradox. Ça a quel goût les graphismes léchés? Ça a bon goût. Voilà. Alors je l'ai là. Combien de minutes? Une, deux, c'est bon. Je l'ai. Ok. Je vous montre. Et en vrai, ça a l'air plutôt cool. Allez. Voici le jeu. Bon, vous le verrez mieux sur Twitch que sur TikTok. Sur TikTok, la mise en page est compliquée pour un ce type de format, mais je pense que vous allez voir un petit peu. C'est pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. T'as vu, Nicolas? Eh. C'est pas mal, non?
Je sais pas.
Moi, je. Quelqu'un me dit que j'avais déjà joué le trailer il y a quelques temps. Alors, je sais que je me rappelle de rien, mais quand même, quoi. Hein? Les graphismes sont cool, je sais pas. Ça a l'air. Les petites aventures du poulpe, là. Je sais pas. Et c'est français. Bah, ça, bon, on devrait avoir la date de sortie dans les prochaines semaines. Je viens de comprendre le jeu de mots Étienne. Ouais, Cyril, je sais qu'au début, c'est pas. Moi-même, j'ai mis du temps à le comprendre. J'avoue. Voilà. Petite pieuvre, là. Pas mal, non? C'est français. On attend. Il me reste du temps. Ok. Oh, ça va, on a bien bossé ce matin. On a réussi à parler pas mal d'actu en assez peu de temps. Dans le monde, la dernière édition du monde, un gros coup de projecteur sur la passion des Français et des Françaises pour le jeu de société, du jeu vidéo au jeu de société. Alternative aux écrans, source de plaisirs enfantins, les jeux de société séduisent de plus en plus d'amateurs, il y a de plus en plus de joueurs de jeux de société en France. C'est même le premier marché européen du jeu de société. Faisant de la France une place forte ludique. Combien de jours pour se retaper du The Event? Bah, je t'avoue Cyril que je suis toujours pas remis là. Toujours pas remis. En vrai, je suis en train de me dire que si tu deviens président, tu ne pourras plus streamer, donc je ne voudrais pas pour toi. Si, on continuera à streamer. Je créerai une chaîne Twitch Élysée et on fera un stream tous les matins et on discutera de l'actualité et de la vie du pays ensemble. Par contre, au niveau du chat, il faudra la familiarité. On va se calmer. Hein. Parce que vous parlerez au président des Français. Donc, il faudra un petit peu de tenue, s'il vous plaît. Non. Je vous demande pas de résumer, de mettre un mouchoir sur vos idées, mais il faudra que ce soit correctement exprimé, mesdames et messieurs. Hein. Sinon, je vous dirais, la République, c'est moi. Hein. S'il vous plaît. Oui. Voilà. Mais on va continuer à streamer, oui. Le président de tout. Les Français, exactement. Et genre, on va devoir tout voyer. Non, quand même pas, non. Voilà. Pas encore président, mais déjà la grosse tête. Oh, alors, la grosse tête, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Je rappelle que je suis présentateur. Alors, les Français et les jeux de société. À combien de parties de Codename, de Maudit Maudit ou de Pigeon Pigeon, Alexandra a-t-elle joué cet été pendant ses vacances dans le Vercors? Cette quadragénaire installée à Maison Alfort avec son époux, leurs deux filles de 11 et 15 ans, n'a pas tenu de compte exact, mais elle assure que les sessions étaient quotidiennes et animées. C'est la passion, jeux vidéo, jeux de société. Merde. Pour Alexandra, le jeu est non seulement une expérience cathartique qui purge les petits conflits familiaux larvés, mais aussi une excellente manière d'éviter les temps morts. Voilà. Puis alors, il y a plein d'exemples. Là, Julien, 45 ans. Voilà, ça joue. Voilà, et ça rejoue. Voilà, une fois par jour au moins, ils jouent. Voilà, si Alexandra et Julien font partie de la catégorie des acharnés, ils sont loin d'être les seuls dans l'Hexagone. La communauté des fans de Dixit, de Splendor, de Catan. C'est vous qui m'avez dit tout à l'heure qu'on disait Catan. Gagne de nouveaux adeptes au fil des ans avec l'augmentation des temps de loisirs dans la société, ce qui est une bonne chose. Les activités ludiques ont pris une place incontournable dans la vie des Français, explique un sociologue. Le jeu de société n'a cessé de progresser ces dernières années. La moitié de la population revendique une pratique occasionnelle et 10% disent s'y adonner de manière plus poussée. Nous, on joue beaucoup au jeu de société avec les enfants. Voilà. Je pense qu'on joue au moins 2 ou 3 fois par semaine. Voilà. On joue un peu aux jeux vidéo en famille aussi, mais on joue aussi beaucoup au jeu de société. Ça peut créer des conflits quand tu joues avec de mauvais perdants. Ouais, mais c'est une façon d'expliquer. C'est peut-être l'occasion aussi d'expliquer à ces mauvais perdants que... Le jeu de société, c'est aussi un révélateur de comment on se comporte en société. Et justement, des gens qui ne savent pas se comporter dans les jeux de société, c'est aussi l'occasion pour les proches de leur dire « Bon, écoute, peut-être que... Hein ? T'arrêtes de gueuler maintenant !» Une passion qui fait la joie des professionnels du secteur, tu m'étonnes. On enregistre une croissance continue depuis plusieurs années avec une très forte accélération pendant la pandémie du Covid-19, bien sûr. Lors du premier confinement, les gens ont redécouvert ou découvert le plaisir de jouer ensemble. Cela a longtemps été considéré comme une activité de niche, mais désormais c'est très courant. La France, mesdames et messieurs, c'est vraiment cocorico ce matin. Athlétisme. T'arrêtes de gueuler René, putain, mais oui, faut que je vous mette la ref. Attendez, c'est une rêve de vieux. C'est une vieille vidéo qui est géniale, qu'on retrouve dans tous les bêtisiers.
Je sais pas où elle est, là.
Voilà. C'était un journaliste. Est-ce que c'était Ladislas de Hoyo? Je sais plus comment il s'appelait. C'est un journaliste à la télé française. Il préparait un direct et il s'engueulait avec son technicien qui s'appelait René. Voilà. Et en fait, et la scène est mythique. Donc je vous la mets. Ladislas de Hoyo, c'est ça. Le journaliste, c'est lui. Grand journaliste. Et à un moment, il pète un câble et il engueule son technicien qui fait tout de travers, manifestement, et la scène est super drôle.
Je sais pas où elle est, je la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît? Voilà. Tu le mets derrière le truc, comme ça,
Et puis-je t'opérer avec mon trou du cul, par hasard?
Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel! Je vois pas où est la caméra.
Je veux que ça me foute, moi.
Bon, allez, tiens. La lumière, allez. Merde. C'est terminé.
Ça, ça tourne.
Je sais pas où elle est.
Au début, il est cool, tu vois. En fait, je me rappelais plus de la scène. En fait, il voit pas la caméra. Il voit pas la caméra parce que on lui met la lumière dans la gueule. Quand on te met une lumière de télé dans la gueule, tu vois plus rien. Et donc, il voit pas la caméra. Et donc, il le dit assez calmement au début. Et du coup, le technicien René, il pète un câble à un moment. Et l'autre se barre. Alors que je crois que le direct commençait, quoi. La scène est géniale.
Je sais pas où elle est. Je la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, bah oui. S'il te plaît.
Bah oui. Il dit s'il te plaît en plus.
Voilà. Tu le mets derrière le truc, comme ça.
Et
je le
puis-je t'opérer avec mon trou du cul, par hasard?
Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel! Je vois pas où est la caméra!
Je veux que ça me foute, moi!
Bon, allez, tiens,
la lumière,
allez.
Merde.
Le technicien qui dit, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Que tu vois pas où est la caméra? Alors que son boulot à lui, au journaliste, c'est de regarder la caméra, de raconter son truc. René, il s'est levé du mauvais pied, en vrai. Je voudrais pas défendre mon confrère, là. Mais, si, c'est important. En vrai, le mec se barre. Ladislas se barre.
C'est terminé.
Ça tourne.
Ah bah oui, ça tourne. Mais tu casses les couilles, René, aussi, à un moment. Hein. J'adore. On sent que le technicien est à bout. Ça devait pas être sa première réflexion. Peut-être. Sauf qu'en vrai, ça va. Enfin, là, sur la scène, il parle assez calmement, quoi. Non. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'est pas faux. Donc, pardon, je reviens aux jeux de société. Donc, la France, cocorico, il y a l'athlétisme, il y a les jeux vidéo et jeux de société. C'est qui les meilleurs? C'est nous. La France vient de coiffer l'Allemagne au poteau en devenant le premier marché européen. Selon le cabinet d'études spécialisé Circana, 34 millions de boîtes vendues en 2024. Chiffre d'affaires, 587 millions d'euros. Voilà. L'un des atouts de notre pays, un réseau de distribution très solide avec des magasins indépendants. Voilà. Achetez vos jouets et vos jeux de société dans les magasins indépendants, en vrai. Donc il y a la consommation, la création aussi de jeux, hein. À en croire Étienne Delorme. Ah, mais je connais moi Étienne Delorme. Heureux coordinateur du Festival ludique international de Parthenay, qui a attiré cette année 200 000 visiteurs en juillet. Il y a même une French Touch. Je crois qu'il m'a invité d'ailleurs. Mais en juillet, je suis en Corse, moi. Il y a même une French Touch en matière de jeux de société. Au-delà des mastodontes, il existe un tas de petites maisons d'édition indépendantes avec des auteurs qui imaginent des mécaniques subtiles et de nouvelles manières de jouer. Donc ça joue, quoi. Ça joue. Ah, donc il y a plein d'exemples de Français, de Françaises qui sont à donf dans le jeu de société. Ah oui, alors quelqu'un disait tout à l'heure, ouais, mais attention, ça dépend avec qui on joue, parce que parfois il y a des gens qui sont un petit peu mauvais joueurs. Hein? Certains disent, je trouve que ça aide à briser la glace, j'ai tissé des liens amicaux par ce biais. Hein, on se découvre sous un autre jour, on dévoile de nouveaux aspects de sa personnalité. C'est un accélérateur d'émotions positives comme négatives. Comme le jeu vidéo d'ailleurs. Moi je connais des vieux joueurs de jeux vidéo, des un peu vieux là, qui gueulent en game. Oui, le matchmaking de merde, marre des smurfs, ce jeu est pourri, je vais arrêter de jouer, je vais le désinstaller. Je connais des vieux comme ça qui gueulent, c'est incroyable. Donc ça révèle un peu les personnalités, quoi. Avec l'expérience, toutefois, ce joueur a appris à se méfier des mauvais joueurs ou de ceux qui, comme son père, narguent un peu les adversaires quand la partie leur est favorable. Hein. Marqué par un épisode spectaculaire où l'une de ses connaissances a renversé la table. Après avoir perdu à Citadelle, Maxime adapte le choix des jeux au casting des convives. Les âmes susceptibles ou belliqueuses sont désormais interdites de pratiques impliquant trahison, coup bas et identité masquée. Donc on peut jouer avec n'importe qui, mais pas à n'importe quoi. C'est intéressant. Hein. Oui, ça parle pas du jeu de rôle, Esprit Orc, mais on a beaucoup parlé du jeu de rôle ici aussi. Voilà. Si le jeu de société fait figure d'activité fédératrice, il faut tout de même bien le choisir. Un critère est essentiel, la simplicité des règles. Ouais, c'est vrai. Elles doivent être comprises en quelques minutes. Ouais, s'il faut mettre 30 minutes pour éplucher la règle, merci quoi. Bon, après, chacun joue comme il veut. Vincent Berry constate par ailleurs que le jeu de société fait figure de valeur refuge à l'heure de l'omniprésence du numérique. Il y a un vrai engouement des classes moyennes intellectuelles et des familles pour le jeu de société qui permet un retour à la matérialité, une sociabilité commune. C'est devenu un marqueur de bonne parentalité, souligne-t-il. Un constat que Julien a fait plus d'une fois, dans mon cercle de proches, je suis connu comme un mec qui adore jouer. Matt Delon nous dit ne jamais, jamais en capital, jouer au Monopoly avec ma sœur. La dernière fois qu'elle n'a pas triché doit dater de 1984. Dans mon cercle de proches, je suis connu comme un mec qui adore jouer, raconte-t-il en riant. Je sens que mon image a changé. On ne me regarde plus comme un geek qui a une passion bizarre, mais comme celui qui détourne les enfants des écrans. Pas mal ça. Bien ça. C'est vrai que nous, à la maison, on aime bien jouer. Pas mal, hein. Vous jouez, vous ? Ah non, un tricheur, non. Un tricheur, c'est long. Non, pas qui détourne les enfants. Qui détourne les enfants des écrans. Vous jouez, ça joue. Tu ne veux pas partir au cours des animateurs si, mais 11h30. Ça joue. On a arrêté, ça finit en bagarre. Ludo Tecker, formé en 2021. Bon, GG Nausicaa. Bibliothèque remplie de jeux société. Je fais pleurer ma nièce parce que je la laisse pas gagner et j'aime ça. Goodies, je fais pleurer ma nièce car je ne la laisse pas gagner et j'aime ça. Ah ouais, quand même. C'est Rayou qui avait expliqué qu'il avait son petit neveu aux jeux vidéo pour lui apprendre la vie à la dure, je crois. On s'amuse en famille, ma fille a plein de jeux, elle adore ça. Ça finit souvent en combat de MMA, me dit Ocharou. Je ne laisse pas gagner non plus, me dit Alex, faut apprendre. Trivial poursuite, édition génie, c'est top, j'adore. Incroyable. Je laisse jamais gagner mes neveux, me dit Marillion. Je laisse gagner mon fils, mais pas tout le temps, faut pas déconner. Moi, je m'arrange, quand je joue avec les petits, moi. Enfin, vous, je sais pas, en tant que parent, moi, je me débrouille pour plutôt perdre. J'aime bien... Alors, j'essaye que ce soit serré. J'essaye que ce soit serré pour le content, hein, pour que la partie ait un intérêt. Et en général, dans la dernière ligne droite, je lève un peu le pied et je laisse gagner surtout les plus petits. Voilà. Voilà. Ou alors, j'en gagne une, mais j'en perds deux derrière, tu vois. Faut pas ça leur apprend la vie. Faut pas Samuel, après ça quoi? Ça va devenir des mauvais perdants? Ah, tu crois? Ah ouais, mais ça fait tellement plaisir aussi. Attends, j'en gagne parfois un petit peu, mais pas trop quoi. Chez Rolex, j'ai déjà laissé gagner ma copine et quand je lui ai avoué, elle m'a fait la gueule. Alors je le fais plus jamais et elle fait la gueule parce que je perds. Bah ouais, c'est le problème ça. Comment ça, il y a Joli Cœur qui dit, comme ça je fais pareil avec les hommes, j'adore. J'adore. Non mais de temps en temps je gagne de temps en temps. Salut la Zinette. Animateur socioculturel. Excellent. Je suis mauvaise joueuse, me dit Alice. Merci beaucoup, Failed, pour le Prime. Merci. Merci, Julio Franchute, pour le 48e mois d'abonnement. Florian nous dit. Non, Philoria, pardon. Je suis mauvaise joueuse parce que quand j'étais jeune, ma mère était horrible quand elle gagnait. Très, très compétitrice. Mais je me soigne et j'essaie d'être mauvaise perdante. J'adore. Mon grand-père ne m'a jamais laissé gagner aux échecs pour me forcer à m'améliorer et m'apprendre la vraie vie. Ok, ok, je vais laver les enfants. Ok, je vais leur rouler dessus. Ok, ok, je vais les faire pleurer. Ok, vous insistez? Ok, je vais vous faire des vidéos. Je vais vous faire des vidéos que je vais poster sur les réseaux, voilà. Où je fais pleurer mes enfants pendant des heures le dimanche, voilà. Je vais les laver. Allez, 13-0, 15-0, 20-0. Et puis je vais leur dire, putain, vous êtes nuls. Ah, vous êtes vraiment des bouses. Putain. Mais allumez vos cerveaux. Nulos. Et je vais poster les vidéos. Ok, je vais faire ça. Le pire, c'est que ça ferait des millions de vues, ça. Non, ils sont trop choux, mes petits. Je peux pas, ils sont trop choux. Je les aime trop. Vous les verriez avec leurs petites bouilles, avec leurs grands yeux, là. Vous pourriez pas faire ça. Ah, en même temps, si ça fait des vues, ça fait un peu de tunasse, quand même. Ouais. Peut-être moyen de faire un petit peu de thune, non? Mais je suis flou, là. La caméra, elle est floue, là. Oh. Oh, ça va. Peut-être que j'ai pas assez dormi. Quand je dors pas beaucoup, je suis flou. Allez, pour finir, en beauté, un petit portrait de quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, Mr. V, Yvick, voilà, le youtubeur, l'acteur, le chanteur, voilà, dont un long métrage vient de sortir sur Amazon Prime. Tout à l'heure, on en a parlé. Les avis étaient partagés. Certains trouvent que c'est super. D'autres ont pas trop accroché. Il y a un portrait, très joli portrait, dans Le Monde. Un apéro avec Mr. V. Voilà, manifestement, il est à l'eau. Il est à l'eau. Il est à l'eau. Manifestement, il est à l'eau. Voilà. Triste cire. Hein. Triste cire. C'était qui déjà qui s'était moqué d'un humoriste qui avait dit qu'il avait arrêté l'alcool et ah, vous êtes bien triste. Et il avait très bien répondu d'ailleurs. Ah oui, je me rappelle. Oui, ça me revient. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, je me rappelle. Et donc, beau portrait, belle interview de Mr. V. Voilà. Voilà. Voilà que le journal dit que le gars est modeste, qu'il est chill, qu'il est cool. Youtubeur, rappeur, vidéaste, acteur, vendeur de pizza. Les pizzas de la mama. La pizza al spermo, la fameuse. Dans les sketchs. En supermarché, je les ai cherchés, celle-là, il n'y a pas. Mr. V a plusieurs casquettes, d'autant que la calvitie l'a frappé dès ses 23 ans. C'est quoi cette obsession pour la société française pour la calvitie? C'est quoi cette obsession française pour la calvasse? Mais laissez! C'est fou quand même! Même le monde! Mais même le monde! Hein? Incroyable ça. On n'en peut plus! Hein? Son public a grandi avec lui sur Dailymotion, YouTube et Twitch. Des jeunes entre 15 et 25 ans qui l'ont vu faire ses devoirs, passer le permis, faire semblant de gagner le GP Explorer. Ils ont chanté ses cultissimes parodies de rap, c'est excellent. Et de country. Wiley Jones. Ouais. C'est pas ce que j'ai préféré, Wiley Jones. Burger. Bon. Ils ont parfois mangé sa scie fromage. Hein. Certains disent même qu'il a inventé l'expression claquer au sol. Il est leur nul à eux. Quelqu'un qu'il pourrait devenir, au moins qu'il le ressemble. Un gamin de province issu des classes moyennes qui rêvait d'être Michael Jordan. Qui se filmait à 8 ans avec le caméscope de papa pour refaire les sketchs de Cad et Olivier dans la grosse émission. Un enfant du Vercors qui s'est peu à peu inventé un pastiche de lui-même pour faire marrer les potes et qui allait devenir sa commu. Voilà. Autant dire que sa maman a pleuré lorsqu'elle a découvert dans son premier long métrage coécrit avec son acolyte Vincent Tirel, où il incarne son personnage récurrent d'agent secret américain, aussi génial qu'Amnésie, créé il y a 10 ans sur YouTube. Le 12 septembre, moi j'ai raté ça, je suis en retard de 3 jours, sur Amazon Prime, Mac Walter tentera donc de sauver le monde, secondé par Géraldine Nakache et William Lebgill, contre le mégalo Vincent De Dienne. Simon Astier à la réalisation. Ok. Can I get some burger? Pardon. Vous avez accroché, vous? Jonathan Cohen à la production. Ok. Comédie potache et burlesque mêlant culture YouTube et parodie des années 90. Alors, les avis sont très partagés. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va voir le trailer. Trailer. Mac, comment ça s'appelle? Arrête de gueuler, relais, non, c'est pas ça, non. Ah, on l'a déjà vu celle-là. Trailer. Merci pour le soutien. Merci, Wishlore69. Mac. Mac quoi? Comment ça s'appelle? Mac Walter. Bande annonce officielle. Ok, je vous mets ça. Ça, c'est de la pub, ça. Une petite pub. Salut, Sarah. Ok, je vous la mets. Can I get some burger? Prêt? Let's go.
Dans cette agence, il y a des gens qui travaillent dans les bureaux, comme vous. Et puis, il y a Mac Walter.
L'explosion a eu lieu hier soir à Pékin. Plusieurs centaines de victimes sont à déplorer. Mais ce qui inquiète le plus...
Ce qui est très drôle, c'est que sur chacun des sites ayant subi une attaque...
Alors moi, c'est... j'adore, moi. La télécommande qui monte le son et la productrice qui gueule, mais c'est du génie.
L'explosion a eu lieu hier soir à Pékin. Plusieurs centaines de victimes sont à déplorer.
Attends, parce que j'avais pas mis grand écran en plus. En plus, j'avais même pas mis plein écran.
L'explosion a eu lieu hier soir à Pékin. Plusieurs centaines de victimes sont à déplorer. Mais ce qui inquiète le plus...
Ce qui est très drôle, c'est que sur chacun des sites ayant subi une attaque, nous avons pu relever quelque chose de très intéressant. Mmh. Vos empreintes digitales. Venezuela, vos empreintes digitales de pied.
Mac Walter est aujourd'hui traqué par les polices du monde entier.
Vous savez ce que je crois, bah. T'es pas français, mais tant pis. Je crois que quelqu'un commet tous ces crimes en se faisant passer pour vous.
Si vous voulez retrouver votre vie d'avant, il va falloir aller la chercher. Trouver qui est le vrai coupable, et vous redeviendrez le héros que tout le monde admirait.
Vous appelez désormais Wesley Davidson, 29 ans, vous avez deux enfants dont l'un est bipolaire.
Je peux les voir?
Non.
C'est sûr qu'il nous a laissé un indice. C'est l'agent secret le moins secret du monde.
Dès que tu seras mort, je pourrai enfin me...
Je mettrai tout en œuvre pour rechercher et arrêter celui qui aujourd'hui est devenu l'ennemi public numéro 1.
Mac Walter, sortez du véhicule, les mains sur la coque.
Non.
Mac Walter.
Batza.
On se connaît, non?
Je suis Mac Walter. Tout le monde me connaît.
Mac Walter!
Alors comme ça, on est tous morts? La honte.
Alors, je suis bon public. J'adore Ivic. Je suis assez fan. Donc, je ne suis pas... Je suis très subjectif. Voilà. Je vais regarder ce film. Peut-être qu'il y a tout dans le trailer. On ne sait pas. Voilà. J'ai vu que les avis étaient très partagés parce que certains ont aimé. Certains moins. Bon, j'irai voir. On termine cette revue de presse là-dessus. Dans le chat, j'ai « N'oublie pas ton taxi », j'ai des SMS. Mon taxi est arrivé. Amis de TikTok, je vous dis au revoir maintenant parce qu'on va faire un raid sur Twitch. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. On se retrouve ce soir sur Twitch, 20h. Il y a Hugo, notre ami Hugo, Odenbuster, qui vient d'envoyer 20 abonnements à la communauté. Hugo, tu es un prince. Donc 20h sur Twitch ce soir pour le react de questions pour un champion des deux émissions de samedi et dimanche. On va bien rigoler. Voilà. Merci Massinissa, comment tu sais? Merci Massinissa, comment tu sais? T'as vu le SMS, c'est incroyable. Et donc ce soir 20h, ma chaîne Twitch, React, question pour un champion. On a fait ça lundi dernier, on va se régaler. Donc non, Selena, la revue de presse, c'est TikTok et Twitch. Mais tout ce que je fais sur Twitch par ailleurs, gaming, tout ça, c'est sur Twitch. Il n'y a que la revue de presse que je fais sur les deux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ami TikTok, merci. Et ami TikTok également demain matin pour la revue de presse, bien sûr, puisque c'est tous les matins, 9h midi en gros. Je vous fais des bisous, bonne journée, bonne semaine, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt, ami TikTok et Twitch, on va faire un raid ensemble. J'arrête le live TikTok. Arrêtez maintenant. Ami Twitch, à nous. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin, merci de la bonne humeur, merci de l'ambiance. Qui on raid là? Attends, il est pas en live Ah bah non, il est. Ah non, faut qu'il revienne. Show H1. Du coup, il peut pas streamer ce matin à cause de moi. Et il faut qu'il revienne sur Paris. Eh oui, oui. Attends. Écoutez, il y a l'ami Hugo. Il y a l'ami Hugo Blaster qui vient de lâcher 20 subs à la commu, qui nous propose deux raids de Jna, notre ami Nadej, qu'on a reçu dans Simplay. Tu es taxi? Merci Manicina, c'est les meilleurs en vrai. Eh ben, je trouve que Hugo, il a raison. Et on raid. Voilà. Deux Jna, Nadej, qu'on est en train de papoter avec une amie, voilà, peut-être une autre créatrice de contenu. Je vous montre, c'est Maevatopia. Hop, c'est ça. Voilà. Et on va la raid tout de suite. Le raid se charge à ce soir pour un stream exceptionnel. Pour la deuxième fois dans l'histoire de cette chaîne, on va react du question pour un champion. On va rire, vous allez jouer. Alors, je vais poser les questions, je vais faire pause, vous répondez. Moi, je réponds pas, je les connais, les questions, même si je me rappelle de rien à cause de l'âge. Et puis, je vous raconte les coulisses de l'émission, de la télévision. Hein, on raconte les histoires croustillantes des dessous de la télé. Ouhou. Tiens, je vais vous raconter mon tournage avec TF1 où je vais là tout de suite puisque je vais participer au grand concours des animateurs. Le taxi m'attend. C'est parti pour le raid. Bonne journée. Merci. À ce soir, bande de beaux gosses. Merci pour tout.